Merci beaucoup de cette introduction, Bruno. Merci aussi d'être venu si nombreux pour entendre parler de physique et de géophysique et de géologie à propos d'un film de science-fiction. Et donc, c'est vrai que ça faisait quelques temps, en fait, que Pierre et moi, ça nous titillait de faire un plan ensemble, parce qu'on avait fait des choses il y a longtemps sur Tintin. On s'est dit, peut-être, on va le refaire. Enfin, j'avais fait ça avec mon collègue Moscovitch, qui était à l'Institut d'Astrophysique de Paris. On avait fait vraiment l'astronomie dans Tintin, mais il y a aussi beaucoup de géologie dans Tintin. Et on s'était dit avec Pierre, peut-être, un jour, on va se faire cette conférence Tintin sur la Lune, disons, du point de vue de l'astronomie, de l'espace et du point de vue de la géologie. Et puis, finalement, le film Seul sur Mars est sorti. Alors, Seul sur Mars, il y a évidemment beaucoup de physique, il y a des éléments de physique, il n'y a pas que ça, il y a des éléments, on va voir, de biologie, de culture, on cultive des patates sur Mars, enfin, il essaye, le gars. Et puis, il y a de la géologie, évidemment, quand on voit un paysage comme ça, on se demande qu'est-ce que c'est que tout ça. Et il est paru absolument évident que le seul géologue au monde capable de résoudre ces questions, c'était Pierre Thomas, en dépit de sa, disons, son aversion pour la science-fiction. Ce n'est pas sa tasse de thé. Il a surmonté avec courage le visionnage unique du film.
Deux fois.
Tu l'as vu deux fois, alors. Donc, il a vu. Donc, il a surmonté avec courage le visionnage double du film pour, évidemment, faire l'analyse géologique du film et la discussion qui ira bien sur Mars. Et moi, je l'ai visionné, disons, plusieurs fois pour le reste, et j'ai essayé de sélectionner des parties qui concernent la physique et qui me paraissaient intéressantes à discuter et à évoquer ici dans le festival. Alors cette conférence, comme vous l'avez compris, c'est une conférence expérimentale. On n'a jamais fait ça avec Pierre, on n'a jamais fait ça au festival, même des conférences à deux voix, je ne suis pas très sûr qu'on ait réussi et qu'on ait déjà fait ça.
On n'a jamais répété.
Hein,
on n'a pas répété.
Et on n'a pas répété. Enfin si, deux minutes en bouffant, il y a deux jours à la ferme, on s'est dit bon, tu fais ça, je fais ça, tu fais ça, je fais ça, et c'était marre. Donc voilà, c'est un peu expérimental. Normalement, ça devrait bien rouler. Si tout se passe bien, on devrait faire environ 45 minutes chacun, ce qui veut dire que de toute façon, dans une heure et demie, vous êtes encore là probablement, et il se pourrait qu'à nous deux, nous atteignions enfin le sommet qui est André Braïc et qu'on tienne 3 ou 4 heures à tous les deux, mais il faut être deux quand même, parce que Braïc, ça reste quand même un sommet. Il faut reconnaître, Braïc, c'est un sommet. Alors, donc pour commencer, je vais montrer le petit extrait. Alors là, c'est l'image de départ. Il y a un extrait. Alors, ceux qui n'ont pas vu le film, ça va être un peu un spoiler, mais j'ai arrêté à la bonne image. Hein. Après, il y a toute la suite du film. J'ai fait une sorte de cliffhanger. Et dans ces petits extraits, en fait, on va écouter ce qui se passe. Et en même temps, je l'arrêterai de temps en temps parce qu'il y a des éléments qu'il faudrait noter au moment où ils se produisent. Et puis ensuite, il faudra les avoir en tête ou je les rappellerai pour comprendre ce qui se passe. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu le film, quand même, c'est un film qui évoque beaucoup L'île mystérieuse, par exemple, ou Robinson Crusoe. C'est quand même un gars qui est naufragé sur Mars. Il y a un accident, on va le voir au début, il y a un problème, et le gars reste sur Mars, il est tenu pour mort, il reste sur Mars, et il faut qu'il tienne un certain temps sur Mars, des centaines de jours, plusieurs centaines de jours, martien ou terrestre, c'est presque la même chose, mais enfin, essentiellement des centaines de jours, avec des ressources très limitées et dans des conditions très hostiles pour la vie humaine, en tout cas. Et donc, c'est tout le film, c'est cette histoire de la survie du personnage et de son secours à la fin du film, et tout se passe bien, évidemment, comme souvent dans les films américains. Et donc là, on voit, sur le début de la scène, pour vous situer la situation, on voit d'abord des éléments, il y a une tempête qui s'avère, là c'est le MAV, le Mars Ascent Vehicle, ils vont dire VAM dans le film, parce qu'ils vont dire ça en français, le véhicule ascensionnel martien pour quitter la surface de Mars, qui était prévu pour la quitter à la fin de la mission, mais qui en fait, évidemment, ils vont raccourcir la mission à cause de cet élément qui est la tempête là-bas. Il y a un personnage qui est ici, il y a le VAM qui est là, et c'est parti, à peu près, l'extrait dure à peu près 2 minutes.
Martinez, comment ça évolue?
Pas bien.
1200 km de diamètre, cap à 24,41 degrés.
Elle se dirige droit sur nous.
Selon les derniers calculs, on estime sa force à 8600 newtons.
Vous avez entendu, 8600 newtons.
À combien on abandonne?
À 7500.
7500, à 7500, c'est la catastrophe.
Au-delà de ça, le VAM risque de basculer.
Donc on plie bagage.
Entamez la procédure.
En tenant compte de la marge d'erreur, on pourrait attendre que ça retombe.
C'est ça, attendons. On n'a qu'à attendre.
Commandant, préparez-vous pour un décollage d'urgence.
Vous avez remarqué que le commandant est une femme, ce qui est suffisamment rare pour être noté dans les films de science-fiction.
Commandant.
On plie bagage, c'est un ordre.
Remarquez la taille du personnage sous les réacteurs. Je vous fais la décomposition du loup qui regarde le film. Hein. Évidemment, Ça vous gêne un peu, je comprends, mais c'est comme ça.
Martinez, combien de temps avant le décollage ?
12 minutes.
Là, il y a des indications numériques intéressantes.
La visibilité est...
Il y en a d'autres ici. Il y en a d'autres ici. Ça, c'est dans le costume.
Si vous vous perdez, calez-vous sur la télémétrie de ma combinaison. Soyez prêts à sortir.
Pareil.
Remarquez, il y a du gravier qui vole.
Commandant, ça va ?
Ça va !
C'est d'ailleurs curieux que le casque résiste. Ah, d'autres indications ici. Ah, d'autres là, qui ne sont pas les mêmes.
Commandant, on est à 10 degrés, le VAM basculera à 12,3.
Vous avez compris, on est à 10 degrés, le VAM, le véhicule ascensionnel martien, à 12,3.
Attendez, vous n'avez pas pouvoir empêcher le VAM de basculer.
Comment?
Les câbles du...
J'ai une idée géniale pour sauver le VAM.
Communication pourrait servir là-bas. On les entrera
Malheureusement, l'idée... Bah, juste... Malheureusement, l'idée géniale a été fauchée en plein vol. Et après, c'est l'histoire. Donc là, on a vu un certain nombre d'informations. Une première, d'abord, pour évoquer des images. Alors, j'ai parfois empiété un peu sur le terrain de Pierre pour la continuité du discours. Là, on voit quelque chose qui ressemble étonnamment, enfin, plutôt dans le film, ça ressemble étonnamment à ça. L'espèce de tempête de poussière qu'on voit dévaler, ça ressemble étonnamment à ça, qui sont des nuées ardentes qui dévalent d'un volcan, en l'occurrence, un volcan du Chili. Et là, on voit, pour faire leur poussière, leur système qui dévale, ils n'ont pas inventé pour le moindre truc au hasard, ils ont dû s'inspirer, ça ressemble à ce point aux nuées ardentes, qu'ils ont dû s'inspirer des nuées ardentes. Donc c'est aussi amusant dans un film comme ça d'essayer de voir qu'est-ce qu'ils ont pioché pour que les images aient l'air crédibles, qu'elles fassent vrai, même si elles ne sont pas très adaptées, puisque là, ça, en l'occurrence, ça résulte d'une éruption volcanique, tandis que ce qui est dans le film, c'est une tempête martienne dont on parlera tout à l'heure. Alors ce qu'on a appris, c'est que le vent qui s'exerce, le vent qui souffle, exerce, on imagine sur le VAM, sur le véhicule martien, le véhicule ascensionnel, une force de 8600 newtons. Le newton, c'est bien une unité de force. Donc ça, de ce point de vue-là, ils parlent de force, ils mettent des newtons. Ça, c'est bien, c'est la bonne unité. Et puis, la limite de sécurité est à 7500 newtons. Autrement dit, ça devrait mal se passer pour le VAM. Et puis, ce MAV ou ce VAM va basculer à 12 degrés d'inclinaison. Par ailleurs, j'ai remis dans ce petit tableau les valeurs numériques qu'on voyait quand c'était dans le SAS. Des pressions, pourcentage d'oxygène, température. Vous voyez, les pressions, elles sont mises en psi. C'est un truc d'américain, ça, c'est les pounds par square inch. Donc on dit, on s'en fout, nous on dit des bars, on dit autre chose, enfin pas des psi. Et les pounds par square inch, c'est 8, voilà, c'est ça, en pascal. Et le pascal, c'est un newton par mètre carré, une force de 1 newton sur une surface de 1 mètre carré. Bref, ça, c'est en gros la pression atmosphérique habituelle, c'est en gros la pression atmosphérique habituelle dans le sas où arrivent les astronautes. C'est assez normal, ils viennent de l'intérieur, ils ouvrent la porte, la pression d'un côté et de l'autre est la bonne. Ensuite, ils vont faire baisser la pression dans le sas pour sortir sur Mars, où la pression est beaucoup plus faible, et ce 0,11 psi, c'est à peu près effectivement la pression qui règne à la surface de Mars. Donc, dans le sas, on fait baisser la pression et on peut ouvrir la deuxième porte et sortir sous peine d'avoir des graves soucis si on ouvre les portes trop tôt ou trop tard. Et puis dans le scaphandre, il y a cette pression qui est indiquée, qui n'est ni la pression martienne, ni la pression atmosphérique. Alors ça, c'est intéressant, c'est que cette pression dans le scaphandre, elle correspond en gros à un tiers de pression atmosphérique, et c'est tout à fait les pressions que l'on trouve dans les scaphandres des astronautes. Si on gonfle les scaphandres des astronautes à une pression atmosphérique, le scaphandre, il est gonflé, mais comme un pneu, le gars, il est comme ça, et il ne peut pas bouger le bras, il ne peut pas bouger les doigts. Donc on met une pression beaucoup plus faible dans le scaphandre, un petit peu de pression quand même, pour qu'il y ait de l'air, pour que le gars puisse respirer. Mais on ne met pas une pression si forte que la pression atmosphérique, on met typiquement un tiers de pression atmosphérique. Oui, mais si on met un tiers de pression atmosphérique, la pression partielle de dioxygène qui nous permet de respirer, là il y a 20% de dioxygène à 21% dans l'air qui nous entoure, à une pression atmosphérique. S'il y a un tiers de pression atmosphérique et qu'il y a 20%, la même proportion de dioxygène, vous avez une pression partielle de dioxygène un tiers plus basse. Là, en gros, vous êtes dans la situation, le sommet de l'Everest, même encore beaucoup plus haut. Enfin, vous êtes dans une situation où vous ne respirez pas bien, pour dire la vérité. Donc, en fait, il aurait fallu que l'indication du scaphandre ici indique plutôt, disons, 60% de composition dioxygène, presque du dioxygène pas pur, mais une bien plus forte teneur en dioxygène dans le scaphandre que dans la pression habituelle qui nous entoure, qui est celle de la base, pour que ça fonctionne. Sur Mars, la pression dioxygène, la pression, enfin, le pourcentage de, dans la composition martienne de l'atmosphère, 0,14%, c'est la bonne valeur. Et puis les températures ici et ici, qui sont raisonnables, d'ailleurs on les voit varier dans le film, elles partent à peu près 19-20 degrés, puis elles diminuent, parce qu'il faut peut-être que le système de chauffe du scaphandre ou du sas se mette en marche. Et puis, quand ils sont sur la surface de Mars, moins 62 degrés Celsius, une température tout à fait plausible, c'est la température moyenne à la surface de Mars, qui peut varier entre, disons, au solstice d'été en plein midi solaire de 0 ou quelques degrés Celsius, des températures même éventuellement positives, marginalement positives, à des températures nocturnes en plein solstice d'hiver, à peut-être moins 120 ou moins 130 degrés Celsius. Donc tout ça est pas mal, sauf ça. Voilà, sauf ça. Ils auraient dû mettre 60% ici, et puis le reste qui est ici, ben on va discuter de ça. On va se demander, est-ce que le MAV, est-ce que ce véhicule peut basculer? Alors pour l'instant, j'ai fait une schématisation grossière. Vous savez, les physiciens, ils font toujours des modèles grossiers. Tout est sphérique, sans frottement et dans le vide. Ça, c'est la première approximation. Et puis ensuite, on s'arrange. Si on arrive à expliquer les choses, bon, on est content, on a l'impression d'avoir saisi un phénomène. Puis sinon, on révise sa position. Donc là, j'ai modélisé le MAV par ce bloc vertical. Il faut l'imaginer comme un cylindre, par exemple, posé au sol. Et puis, il y a son poids, le tire vers le sol. Et là, le MAV posé tranquillement sur le sol. Et puis, j'ai fait un rapport d'aspect, un diamètre sur la hauteur totale. En regardant l'image, on pourra apprécier ça un peu mieux tout à l'heure. Il y a à peu près un rapport 2. Il est à peu près deux fois plus haut que large. Donc, j'ai fait un cylindre qui a un rapport d'aspect plausible avec un centre de gravité que j'ai mis un peu au hasard pour dire que quelque part, il y a un centre de gravité, mais qui peut être quelque part, pas forcément au centre géométrique, sur l'axe de symétrie probablement, mais peut-être pas au centre de la verticale, parce qu'il y a des éléments plus lourds en bas qu'en haut et que le MAV, il est lesté, si je veux dire, il est plus lourd en bas qu'en haut. Alors, si une force s'exerce sur cet objet, il va... Évidemment, ça, c'est donc un cylindre, c'est une très grosse schématisation. Ça va le faire basculer, et il va le faire basculer en agissant. Là, cette force qui agit, en fait, ce n'est pas la force qui va compter, ce qu'on appelle le moment de la force, qu'on appelle aussi le couple de la force, qui va avoir tendance à faire basculer le cylindre. Et elle va le faire basculer en dépassant le couple du poids, le fait que le poids va... En tirant, si vous aimez que vous tirez sur la flèche bleue, ça fait tomber le cylindre, ça le remet sur ses pieds, et si vous poussez sur le côté, ça a tendance à le faire basculer du côté inverse, en pivotant, par exemple, si la force est exercée de droite à gauche, en pivotant autour de ce point-là. Bon. Donc, si la force du vent est trop grande, le truc peut basculer jusqu'au point où le centre de gravité est au-dessus du point d'équilibre, et puis après, le poids va tirer de l'autre côté, et boum, il va tomber, il va basculer, effectivement. Alors, en fait, dans une simulation, dans une situation comme celle-ci, ce qu'il faut réaliser, c'est que la force du vent, tant que la force du vent n'est pas suffisante pour que le couple associé commence à faire la bascule, le MAV ne bouge pas. Et puis dès que la force est suffisante pour que son couple fasse basculer, fasse bouger le VAM, plus le truc s'incline, plus le couple du poids est petit. Là, le couple du poids est nul. Là, c'est la force multipliée par cette distance ici. La distance, là, elle vaut 0, là, elle vaut ça. Et puis là, elle vaut la plus grande distance possible, elle vaut le rayon du cylindre qui, dans notre simulation, représente le MAV. Et donc, dans cette situation-là, on se retrouve avec un MAV qui, dès que la force est trop grande, il tombe. Mais là, on nous parle d'équilibre dans le film. Alors, quand on était avec cette affaire d'équilibre, on en va revenir, oui, j'avais dit ça, je le passe rapidement. En fait, quand on le regarde bien, ce n'est pas un cylindre, il a des grands pieds. Ça va aider qu'il ait des grands pieds. Ça va être encore plus dur de le faire basculer selon cette première vision des choses. Mais en plus, si vous avez vu dans le film au début, là, et puis ici, et puis là, il y a des espèces d'amortisseurs. Il y a une espèce de système qui a l'air que, en fait, la fusée, elle est posée sur un support qui est un trépied, qui a des espèces d'amortisseurs. Là, effectivement, si le support a des amortisseurs, s'il peut, il y a des sortes de ressorts, on va dire, des sortes de vérins, quelque chose qui peut le pousser, il peut s'incliner un peu comme un arbre s'incline, parce qu'il est flexible. En fait, le MAV, il n'est pas comme un seul de monobloc, il est, par des jonctions qui sont ici, un peu flexible. Alors, si on regarde bien cette image, on voit ici les indications 0, moins 5, moins 10, on comprend que ce sont les degrés, et c'est l'image qui est dite quand le personnage dit le MAV est à 10 degrés d'inclinaison, et on voit 10 degrés ici, et on voit cette ligne-là, et s'il n'est absolument pas à 10 degrés, il est plutôt à moins 5 degrés d'inclinaison, le MAV. Donc je ne sais pas pourquoi le gars dit 10 degrés, ça me paraît un peu constaté. Il y a même écrit ici moins 11,5. Je ne comprends pas pourquoi c'est comme ça. En tout cas, le MAV va s'incliner un peu comme ça sous l'effet du vent, parce qu'il y a des ressorts, si j'ose dire, il y a quelque chose, il y a une force ici qui va résister au couple du poids, au couple du vent, plus le poids qui va avec. Et ce MAV va peut-être en équilibre, mais à mon avis, ce qui va lui arriver, ce n'est pas de basculer, c'est que s'il est trop incliné et qu'il veut décoller, il ne va pas décoller dans des bonnes conditions. Donc le coup de la bascule, moi j'y crois pas trop, que ça soit gênant. J'y crois d'autant moins que quand on regarde un peu les dimensions, vous avez vu le personnage tout à l'heure sur les tuyères, c'était le gars avec son casque, il devait faire peut-être 2 mètres de haut, un type un peu grand avec un casque qui dépasse 2 mètres de haut. Donc sous les tuyères, j'estimais à 2,50 mètres la hauteur sur les tuyères, ce qui me confirmait ici, parce que ces graduations que je vois là, en fait, qu'est-ce que c'était? Ben, simplement, c'est des graduations 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres. Et donc 2,50 mètres, si on essaie de mettre à l'œil le mât vertical, ça colle à peu près. Si maintenant on prend la limite supérieure, on va trouver à peu près 24,50 mètres, j'ai arrondi à 24,50 mètres, parce que comme ça, ça nous fait 22 mètres de hauteur. On peut du coup mesurer le diamètre avec cette échelle qui est ici, un double décimètre, on vérifie que ça fait à peu près 11 mètres, d'où mon rapport 2 de haut pour 1 de large, deux fois plus haut que large. Et quand on a un machin qui fait 22 mètres de haut et 11 mètres de diamètre, ça ne pèse pas 3 kilos. Ça doit peser, j'ai mis 100 tonnes, peut-être plus, ça doit peser sa masse, une bonne, mettons 100 tonnes. Et quand on dit 100 tonnes, on se dit oui, mais la force exercée, c'est 8600 newtons. La limite, 7500 newtons. Ça, c'est une force. Ce n'est pas la masse. La masse, sont des tonnes, des kilogrammes. Une tonne, 1000 kilogrammes. Alors, je vais transférer les 8600 newtons en kilogrammes, mais sur Mars. Et donc, je dois tenir compte de l'accélération de la pesanteur martienne, qui est à peu près 38% de celle de la Terre. Et quand on fait ça, la force de 8600 newtons, elle correspond au poids d'une masse sur Mars de 2,3 tonnes. Donc imaginez un gros bousin de 100 tonnes, et il y a un truc de 2 tonnes ou 3 qui pousse sur le côté. Bon, il va sûrement se passer un truc, mais pas le renverser, un peu l'incliner, certainement, grâce à ce jeu de vérin, mais certainement pas le renverser. Donc ça, le coût du renversement, on n'y croit pas, disons, mécaniquement, vu les forces indiquées et l'ampleur de l'objet. Le MAV réel, non, on n'a pas été sur Mars avec des humains, mais le MAV putatif, celui qu'on espère utiliser, vous voyez, c'est beaucoup plus exigu, c'est assez gros, il y a des gros réservoirs ici, on va y revenir, et puis verticalement, il fait plutôt 7 mètres de haut que 22 mètres de haut. 10 minutes, que tu prennes. Alors, calculons la vitesse du vent. Voilà la formule qui tue. La force exercée par un vent de vitesse V, c'est ça. 1/2 de la masse volumique du vent, combien de kilogrammes par mètre cube pèse l'air que vous utilisez. La vitesse au carré, ça veut dire la vitesse sur la vitesse. L'air sur laquelle s'exerce la pression du vent, et puis ici un coefficient aérodynamique. Voilà les valeurs qu'on peut trouver. La force exercée par le vent, on la connaît, on nous l'a dit dans le film. La densité atmosphérique martienne, c'est dans les livres, Wikipédia est votre ami. Air frontal du MAV, 22 mètres x 11 mètres. J'ai un peu fait, c'est un cylindre, mais ça, vu frontalement, ça fait une sorte de rectangle. Coefficient aérodynamique 1, et le calcul donne 67 mètres par seconde, à peu près 240 km par heure. Voilà le vent martien qu'il faut pour exercer sur le MAV, dont j'ai estimé les dimensions, une force de 8600 newtons. Question que je pose à Pierre et qui va y répondre dans quelques instants. Est-ce possible à l'espace de Mars? Ce vent peut-il soulever des graviers comme on le voit à l'espace de Mars? Sûrement pas. Notez que la densité qui intervient, le ρV de la densité fois la vitesse au carré, ce terme-là, imaginons le même MAV sur Terre, quel vent faut-il pour exercer la même force sur le MAV? Comme la densité terrestre est à peu près 75 fois supérieure à la densité de l'atmosphère martienne, il suffit d'une vitesse qui soit racine carrée de 75 inférieure. 8,7, c'est ça, j'ai écrit ça quelque part, 8,7 fois inférieure. Ou à l'inverse, un vent martien doit être 8,7 fois plus rapide qu'un vent terrestre pour exercer, sur une surface donnée, la même force. Et donc, le vent martien de 67 mètres par seconde est comme une petite brise terrestre de 7 à peu près 7,7 mètres par seconde. On n'a jamais eu des graviers voler avec des vents à 25 km par heure. Donc on n'y croit pas du tout le coup des graviers qui volent. En revanche, et c'est la question que je pose à Pierre, faisons un peu de géologie martienne, des tempêtes, ça existe sur Mars, des grandes tempêtes, ça existe sur Mars, des vitesses de vent de 67 mètres par seconde, 70 mètres par seconde, sont-ils possibles? À toi Pierre.
Ça marche. Ça marche. Donc, on va faire un peu de météorologie martienne. Et donc là, vous avez Monsieur Météo. Et c'est des photos météo, comme on pourrait voir tous les soirs à la télévision. Et vous avez les nuages qui se déplacent. Alors, les conditions sur Mars, ça a été déjà dit. En moyenne, il fait moins 60 l'été au pôle Nord. Mais à l'équateur, il fait plus chaud. Mais l'hiver, il fait quand même très froid au pôle Nord ou au pôle Sud, du genre moins 130, moins 135, etc. Donc, on a des conditions de pression pas très bonnes. La pression de l'atmosphère est 60 à 80 fois plus faible que sur la Terre. Alors voilà, on a des bulletins météo martiens. Donc, il y a 4 ans, Curiosity s'est posé. Et voilà le bulletin météo du jour du solstice d'été sur Mars, le 16 août 2012. Et ce jour-là, le vent maximum enregistré, c'était 25 mètres par seconde, ce qui fait 87 km/h, qui, sur la Terre, déplace les graviers comme un vent de 11 km/h. Un vent de 11 km/h ne renverse pas grand-chose. Alors, pourquoi est-ce qu'on a beaucoup... Il y a longtemps que le vent, dans les romans de science-fiction et autres, on en parle beaucoup. Ça date de l'histoire de 71. Il y avait des sondes qui étaient passées sur Mars, en particulier Mariner 4, 7 plutôt, qui étaient passées en 69. La première, c'est Mariner 4, qui ont pris des photos. Et même qu'on est loin de Mars, on voyait des choses, des volcans, des trucs. On voyait la calotte polaire sud. Et la première sonde qui s'est mise en orbite autour de Mars, Mariner 9, en 71, quand elle est arrivée, elle était encore loin, on ne voyait rien à la surface. Les Américains ont d'abord cru que c'est parce que leur caméra était cassée, tout ça, mais non, parce que des fois, on voyait des étoiles au fond qui étaient très nettes. On ne voyait rien parce que Mars était complètement couverte d'une tempête de poussière globale qui couvrait tout. Et cette tempête de poussière globale, il y en a, on va voir, a vraiment alimenté l'imagination des romanciers et des cinéastes. Alors voilà par exemple une tempête là, c'est vieux télescope spatial, juin 2001, bon, Mars normal, et septembre 2001, donc 3 mois plus tard, terrestre, voilà ce qu'on voit de Mars. On peut recommencer si vous voulez. Hein. Et alors cette tempête arrive fin de printemps, début d'été de l'hémisphère sud. Donc tous les 2 ans terrestres, il y a des grosses tempêtes comme ça. Comment ça se fait? C'est parce que l'orbite de Mars est très elliptique. J'ai exagéré l'ellipticité, mais elle est très elliptique. Donc ici, c'est l'hiver de l'hémisphère sud. Et en plus, on est loin de Mars, par hasard, parce qu'on est là. Donc on a des hivers sud qui sont très longs. En fonction des lois de Kepler, on ne va pas très vite. Et puis très froid, parce qu'on est loin. Par contre, l'hiver nord est plus court et moins froid. Et on a des étés sud qui sont courts, mais très très chauds. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a une calotte polaire de gaz carbonique au sud. Elle a le temps de s'installer. Et quand on arrive à l'été, ça fait très chaud. Enfin, très chaud, c'est moins 30, moins 40. Et la calotte polaire se sublime. Et ça fait des variations de pression terribles qui font les tempêtes. Alors, si on mesure la pression sur Mars, ça a été fait par Viking. La pression varie beaucoup, de 25% au maximum. Eh bien, quand c'est l'hiver dans l'hémisphère sud, il y a beaucoup de gaz carbonique qui sont piégés dans le sud, il y a une grande calotte, et la pression est basse. Et quand on arrive au printemps sud, automne nord, eh bien, ça se réchauffe, la calotte polaire diminue, et la pression augmente de 25%, et c'est l'époque où il y a les grandes tempêtes. Il ne se passe pas la même chose quand c'est l'été, l'hiver au nord, parce qu'il fait moins froid, et on fait une calotte polaire nord beaucoup plus faible. Donc il y a des saisons sur Mars, et c'est normal, il y a des grandes tempêtes tous les 2 ans, à peu près. Alors on pourrait faire des calculs, connaissant la taille des calottes, on l'a vu ici, ça c'est la calotte sud, mesure thermique, connaissant les variations de pression, connaissant la densité du gaz carbonique, on peut calculer l'épaisseur des calottes polaires de gaz carbonique, celles qui fondent. Et bien cette calotte qui fond, pour être réduite à 3 fois rien là-haut, faisait à peu près 1 m. Donc c'est des calottes de glace carbonique d'un mètre d'épaisseur qui varient énormément et qui, en se sublimant ou en se condensant, font des tempêtes globales. Alors, il y a également, il t'a montré cette photo, ça c'est des photos prises donc en 2007, vous avez Opportunity qui est là, là c'est je ne sais pas quelle sonde qui passe, on voit le paysage, la tempête va se lever, on voit moins le paysage, la tempête est complètement levée, on ne voit plus rien. Qu'est-ce qu'il se passe au niveau du sol? Eh bien, rien. Parce que le vent souffle là-haut, il transporte de très très fines poussières, mais au niveau du sol, même s'il y a du vent à 100 ou 200 km, qui transporte des très fines poussières, ça souffle pour nous comme du vent à 10 ou 20 km/h. La seule chose qu'on verrait si on était sur Mars pendant ces tempêtes, ce n'est pas des coups de vent, peut-être une légère brise, c'est que toute cette poussière dans l'atmosphère ferait que ça s'assombrirait énormément. Alors là, il y a 94% de la lumière solaire qui arrive au sol. La majorité de la lumière qui arrive au sol, là il n'y en a vraiment pas beaucoup. Ce qui arrive au sol, c'est un quart simplement de ce qui arrive en haut. Et donc le problème, si vous avez des panneaux solaires, c'est pendant les tempêtes, ben, il ne fera pas très clair et vous aurez du mal à recharger vos batteries. Mais à part ça, ça ne fera pas grand-chose. Alors il y a d'autres tempêtes beaucoup plus locales qui se forment souvent en bordure de calotte. La calotte, il fait froid, là il fait moins froid. Et vous avez des tempêtes qui ont une forme caractéristique. Par exemple, là, vous avez le Sahara. Il fait très chaud au Sahara. La mer est beaucoup plus froide, parce que la mer, c'est toujours plus froid que la Terre, parce que ça absorbe beaucoup moins la chaleur. C'est une capacité calorifique plus faible. Et vous avez des tempêtes avec des grands vents de sable sur la mer. Et là, c'est des grands vents de sable sur Mars. Et en étudiant ces tempêtes, on peut voir le front de la tempête, à quelle vitesse il se déplace. Et par exemple, celle-là se déplace à 160 km/h. On divise par 8. Ça doit faire à peu près la force d'un vent de 20 km/h. C'est pas grand-chose. Alors, au sol, il y a des sondes qui mesurent la vitesse du vent. La plus forte jamais mesurée par Viking 1, Viking 2, Phoenix, etc., c'est 30 mètres par seconde, c'est-à-dire 110 km/h, c'est-à-dire trois fois rien. Donc, pour l'instant, on n'a vraiment aucune idée que des tempêtes soient capables de renverser des fusées. Alors, voilà la vue comme ça. Ça, c'est une vraie photo. C'est une tempête qui arrive, dont le front se déplace à les vitesses que je vous indiquais tout à l'heure. Et là, l'auteur s'est inspiré soit des nœuds ardentes, soit d'un machin comme ça. Alors là, c'est Phoenix qui était posé sur le sol. Il y avait une tempête. Et là, c'est des photos des nuages. Il y a une image toutes les 71 secondes, passée en accéléré. Vous voyez les nuages qui passent en haut assez vite. Mais c'est en haut et au sol, il n'y a rien de spécial. Alors, ce vent va quand même faire des dunes. Alors, je vous montre quelques photos de dunes. C'est du sable extrêmement fin et il se déplace très peu. Alors, Vikingien a vu des dunes, Opportunity a vu des dunes. Opportunity toujours a vu un super champ de dunes dans un cratère. Là, vous avez super dune, Violaine nous l'a montré à peu près le même tout à l'heure. Et la dune la plus haute jamais vue sur Mars, c'est celle-là, à peu près 5 mètres de haut. Violaine nous l'a montré aussi. Et si on s'approche, alors Violaine a insisté sur les longueurs d'onde, moi j'insisterai sur les éboulements. Des fois on voit ça, le sable s'éboule. Donc c'est vraiment des dunes actives. Alors si vous avez vu le film, à un moment il va chercher Pathfinder. Et il est ensablé, Pathfinder. Il est obligé de gratter, de gratter, de gratter. C'est-à-dire qu'en 30 ans, une sonde, comment dire, d'un mètre de haut, a été complètement ensevelie. Il n'y en a qu'un tout petit bout qui dépasse. Est-ce que les dunes se déplacent de beaucoup de mètres par an sur Mars? Alors, pas du tout. Alors ça, ce n'est pas sur Mars, c'est sur la Terre. Vous avez un type de dune caractéristique qu'on trouve sur Mars ou sur la Terre, qu'on appelle des barkanes. Alors, je vous les montre parce que ce n'est pas forcément les dunes les plus connues. Dans ce cas-là, on sait que le vent va dans ce sens-là, de gauche à droite. Alors ça, c'est des barkanes tout à fait terrestres. Ça, c'est des barkanes parfaitement martiennes. Le vent, vous avez le sens marqué. Et il y a la NASA a photographié une barkane qui a été photographiée en 2007 et en 2010. Donc elle a subi un an et demi de tempête. Et on va voir comment elle s'est déplacée. Donc ça, c'est 2007. Vous avez l'échelle là-haut, 50 mètres. Eh bien, un an et demi martien. Un an et demi, ça c'est 2010 plutôt, un an et demi martien avant, elle était au niveau du trait rouge. C'est-à-dire qu'elle a avancé d'à peu près un mètre en trois ans terrestres, c'est-à-dire en un an et demi martien. Et là, j'ai une petite animation qui vous montre la dune reculée, avancée, reculée, avancée, reculée, avancée, reculée, avancée. Donc c'est un mètre en trois ans. Eh bien, vous pouvez regarder sur les paysages de Pathfinder, il n'y avait pas de dune à moins d'un ou deux ou trois kilomètres. Donc, jamais une dune n'aurait enseveli Pathfinder. Là, c'est une grossière erreur. Alors, par contre, le vent, il peut faire des choses. Là, c'est le bouclier, un bouclier arrière de Curiosity, et qui est encore attaché à son parachute. Vous avez la date. Le parachute était là en 2012, et puis il y a eu des coups de vent, et il s'est déplacé un petit peu, vous voyez. Mais alors, le vent est capable de déplacer le parachute. C'est pas lourd, un parachute. Il est attaché à un bouclier qui ne fait que 350 kg, et il est incapable de déplacer le bouclier. Alors, de là à renverser une fusée que tu as affichée et estimée à plusieurs centaines de tonnes, là, il y a vraiment une erreur grossière de la part du réalisateur. Mais ça peut quand même secouer. En 2008, il y a Phoenix qui s'est posé là, juste en bordure de calotte permanente, et on savait que quand l'hiver allait arriver, il allait être couvert par la calotte de glace carbonique. C'était prévu. Alors, quand il s'est posé, on a pris des photos d'orbite à très haute résolution. Là, vous avez Phoenix. Là, vous avez le bouclier thermique. Et là, vous avez le bouclier arrière et le parachute. Bouclier arrière, parachute. L'hiver tombe. Je ne peux pas vous montrer des photos l'hiver, parce que l'hiver, au nord du cercle polaire, c'est la nuit polaire. Donc, je n'ai pas de photos. Tout était recouvert de neige carbonique. Puis arrive le printemps. Et là, vous avez la neige qui est en train de fondre, mais vous voyez le phénix qui est là, mais ça n'a pas bougé. Et on attend l'été suivant. Alors l'été suivant, c'est un gros plan. Ça, c'est l'été de 2008, le jour d'arrivée. Phénix, le bouclier, le parachute. L'été suivant, Phénix est toujours là, le bouclier est là, et il n'y a plus le parachute. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quand même assez de coups de vent pour arracher le bouclier. Alors je soupçonne que, mais j'en sais trop rien, que comme le bouclier était sous la neige carbonique à très très basse température, ça a dû rendre les fils cassants. Les fils ont cassé, et un doux zéphyr, c'est pas lourd, un parachute, c'est fait pour, très grande surface, le parachute est arraché. Vous avez en ce moment un parachute qui se balade quelque part sur Mars. Alors, ça c'est une photo du film, vous avez le même, et on voit des tornades. Il en met beaucoup, il s'en sert pas, mais on les voit, c'est joli. Il en met beaucoup. Alors, Roland, ici présent, a estimé la hauteur du VAM à 20, une vingtaine de mètres, tu avais dit 22, et si ça, ça fait 22 mètres, ça, ça fait à peu près 200 mètres de hauteur. Il m'a dit, Pierre, les tornades font 200 mètres de hauteur, combien ça fait sur Mars? Alors d'abord, ça, c'est une tornade terrestre, vous avez tous vu ce que c'est, des petites tornades de poussière, hein. Et voilà des tornades martiennes. Ce n'est pas d'une vue de l'esprit, ça existe. Et voici une super tornade martienne qui a photographié il n'y a pas longtemps, le 31 mars 2016, hein, voilà, une très belle photo, prise par Opportunity, le robot multicentenaire de 12 ans quand même, c'est pas mal. Et voilà une vue animée, ça c'est Spirit, une image toutes les 21 secondes, passée en accéléré, et vous voyez des tornades qui se développent et qui se déplacent. On va peut-être rejouer le film une deuxième fois. Pas trop, parce qu'il va me gronder si je dépasse
le
temps.
Non, tout va bien, tout va bien.
Voilà donc les tornades sur Mars. Alors, il y a des très belles tornades qui sont photographiées de l'espace quand elles fonctionnent. Alors ça, c'est la tornade vue de dessus, c'est de la poussière blanche. Ça, c'est l'ombre de la tornade, le soleil est par là. Et la tornade, en passant, elle enlève la poussière qui est à cet endroit-là plus claire que le sol, c'est souvent le cas. Et donc, vous avez une mare qui fait des fois des tortillons. C'est le sol nettoyé par la poussière. Alors là, j'ai regardé où est-ce qu'était prise cette photo. Elle était prise par 55 degrés de latitude sud, sur la Terre de Prométhée. La date et l'heure de la prise de vue, calcul de trigonométrie élémentaire, qu'on faisait de mon temps en troisième et qu'on fait maintenant en maths spé. et j'ai trouvé que la hauteur de la tornade faisait à peu près 200 mètres. Et j'ai dit, il est quand même très fort, Ridley Scott.
Ridley Scott, là, comme il
là,
a été fort.
C'était bon.
Il a été bon.
Parce que quand je fais des conférences, je mets toujours des allusions sexuelles d'une finesse exemplaire. Voici des traînées. Quand on a vu ces paysages-là sur Mars, on a vraiment demandé, mais qu'est-ce que c'est? C'est des traînées laissées par des tornades. Et je vous montre un des plus beaux spermatozoïdes du système solaire, ici. Alors, ces tornades, est-ce que c'est gênant? Non seulement c'est pas gênant, mais c'est vachement bon. Ça ne fait aucun mal aux rovers. Les rovers en ont pris plein. Le problème, et Violaine en a parlé ce matin, c'est que les rovers se recouvrent de poussière. Ils polissent, ils forent, ils grattent, etc. Un géologue, c'est jamais propre, de toute façon. Alors voici, là, c'est le rover. Vous avez une mire colorée qui sert à étalonner pour les quand on fait des photos couleurs. Qui est là. Le problème des premiers robots, là, Spirit et Opportunity, c'est qu'ils marchaient avec des panneaux solaires. Alors un panneau solaire poussiéreux, c'est très très mauvais, parce que ça donne plus de courant. Un panneau Curiosity poussiéreux, ça gêne Violaine, parce qu'elle a un certain goût de la propreté. Mais ça ne gêne pas pour l'instant le fonctionnement. Là, c'était terrible. Voici donc cette mire colorée, le 5 mars 2005, avant une mini-tornade. Il y a plein de poussière. Les batteries donnaient moitié moins que ce qu'était... Enfin, les panneaux solaires donnaient moitié moins que ce qu'était prévu. Une tornade arrive. Et le lendemain, c'est tout propre. Donc, c'est la véritable tornade blanche. Rappelez-vous les vieux, la publicité sur Ajax Ammoniaqué. Les tornades fonctionnent comme des tornades blanches. Et c'est une des raisons pour laquelle Opportunity, 12 ans plus tard, marche encore. À cause des tornades. Merci les tornades. Et je vais rendre la parole à mon ami Roland.
Alors, là, on passe maintenant à la partie survie de Watney, Mark Watney, qui est le héros du film, abandonné pour mort, laissé pour mort sur Mars, et puis qui doit survivre pendant un certain nombre de jours. Et il a son premier problème, c'est avoir de la nourriture. Il a des stocks de nourriture qui étaient prévus pour 6 astronautes. Il est tout seul, donc ça va permettre de tenir 6 fois plus longtemps à lui tout seul que s'il y avait 6 astronautes. Mais c'est pas, ça ne fait pas le compte en nombre de jours. Et donc, il va tenter de la culture sur Mars. C'est pour ça qu'on va tout à l'heure parler de la terre qu'il utilise, enfin, comment il fait la terre qu'il va utiliser. Il a réussi à en faire 126 mètres carrés. Il a besoin de 40 litres d'eau par mètre cube. Vous voyez, déjà, il y a un problème, parce que 126 mètres carrés de terre, on ne sait pas combien ça fait de mètres cubes. Ça dépend de l'épaisseur que vous mettez. Bon, imaginons qu'il ait mis 10 ou 15 ou 20 centimètres. ça lui fait à peu près 1000 litres d'eau, entre 800, 1000 litres d'eau peut-être, pour à 40 litres d'eau par mètre cube, il a besoin d'eau. Donc son problème, il doit d'abord faire de l'eau avant de commencer à cultiver ses pommes de terre. Il va cultiver des pommes de terre. Alors, pour produire de l'eau, il utilise la réaction bien connue et la plus simple qu'on connaisse, pratiquement une des premières qu'on voit en chimie, mélange de dihydrogène et de dioxygène qui produit de l'eau, plus également de l'eau sous forme de vapeur. Cette réaction est exothermique. C'est une réaction un peu dangereuse, d'ailleurs, dans le film. Ceux qui ne l'ont pas encore vu, je ne dévoile pas, mais il a quelques soucis avec cette réaction. Il y a des gens qui avaient tenté de faire voler des ballons qu'on appelait des zeppelins avec du dihydrogène, et une étincelle a permis de faire exploser ce ballon. Ça, c'est l'explosion, le fameux accident du Hindenburg en 1937, qui, au moment de s'amarrer, il y a eu une décharge électrostatique qui a enflammé le ballon, une réaction hydrogène, dihydrogène, dioxygène, qui a donné de l'eau et un certain nombre de morts, plus un ballon qui s'est arrêté, et puis d'ailleurs toutes les lignes de Zeppelin. Histoire, quand même, il faut se rappeler qu'à l'époque, à cette époque-là, il y avait les premières lignes Berlin-New York en Zeppelin. Berlin-New York en Zeppelin. Des ballons qui faisaient 350 mètres de long, enfin quelque chose d'incroyable. Alors, il produit de l'eau en mélangeant du dihydrogène et du dioxygène. Alors maintenant, la question, c'est d'où il prend le dioxygène de l'atmosphère de son habitat, et puis d'où il prend le dihydrogène. Alors là, qu'est-ce qu'il fait? C'est dit dans le film, et c'est dit aussi d'ailleurs dans le livre, hein, parce que ce film est fondé sur un livre de Andy Weir, un auteur de science-fiction américain. Et il produit le dihydrogène à partir d'hydrazine, parce que dans le film, il nous dit il y a plein d'hydrazine, les gaz sont barrés, mais il restait de cette réserve de carburant, cette hydrazine qui était sert comme ergol, comme on dit, comme carburant, pour la fusée. Et alors, par ces réactions chimiques, de l'hydrazine sur un catalyseur adapté, et dans le film, il utilise un catalyseur à l'iridium, donc exactement le catalyseur qu'il faut. Vous mettez une goutte d'hydrazine sur de l'iridium, ça produit de l'ammoniac qui peut réagir avec l'hydrazine pour faire du diazote et du dihydrogène, ou directement produire du dihydrogène dont vous avez besoin. Et dans le film, on le voit, goutte à goutte, il fait tomber de l'hydrazine, d'ailleurs qui est un composé, disons, au-delà de 50 degrés, c'est pas très bon, il se décompose, ça, c'est pas un composé très bon, enfin, de toute façon, c'est ça ou la mort, hein, donc il prend ses risques. Et il fait tomber son hydrazine goutte à goutte sur son catalyseur d'iridium qu'il a récupéré sur les modules de lancement de la fusée. Donc de ce point de vue-là, ça marche pas mal du tout. Et en faisant cette opération-là, il produit de l'eau. Alors on va revenir, on va rediscuter un peu tout ça dans la suite. Alors de l'hydrazine, si je reprends cette image du film, vous voyez, c'est là où j'ai estimé 2 mètres le gars avec son scaphandre. Et puis il y a peut-être 70 cm ici, c'est pour ça que j'ai dit 2,50 m sous les tuyères. Regardez ce qui a marqué là-haut. Allez. Il y a effectivement écrit hydrazine. Ridley Scott, il pense à tout. Le mec d'hydrazine, il y a écrit hydrazine quelque part. Bon, ok, il y a d'hydrazine. Alors le seul problème, c'est que dans les fusées, enfin dans le projet d'exploration martienne humaine, le module de retour va être envoyé en avance avec zéro carburant à l'intérieur et devrait y avoir une petite usine qui va produire le carburant nécessaire au décollage. Et ce carburant ne sera pas de l'hydrazine, mais du méthane. Et du dioxygène, un mélange de méthane et dioxygène qu'on peut fabriquer, on va voir comment tout à l'heure, assez, disons, facilement à la surface de Mars, en amont, en avance de l'arrivée des astronautes. Donc là, l'hydrazine, elle ne sert pas, dans ce cas-là, à quitter la surface de Mars, elle ne servira pas, en tout cas dans les plans actuels de la NASA, à quitter la surface de Mars, elle va servir à une autre chose, mais à se poser sur la surface de Mars. L'hydrazine, c'est quelque chose qui sert beaucoup dans la propulsion. Par exemple, la sonde Juno, j'en parle parce qu'elle est arrivée en juillet dernier. C'est les Américains qui l'ont envoyée, ils l'ont fait arriver le 14 juillet. D'habitude, ils disaient que ce soit le 4 juillet, mais là, c'était le 14. Ils ont fait arriver cette sonde autour de Jupiter pour étudier toute la magnétosphère de Jupiter. Et cette sonde, pour ses corrections orbitales, elle a tout un tas d'orbites qu'elle va modifier petit à petit. Elle va utiliser de l'hydrazine monoergol, comme on dit, de l'hydrazine seule, qui, en étant déposé au bon rythme sur le catalyseur adapté, va produire la poussée très faible, mais parfaitement contrôlée, pour permettre d'orienter et surtout de modifier l'orbite de la sonde Juno. L'hydrazine a servi pour poser le rover, ça c'est une image évidemment qui n'a pas été prise en réalité, c'est une image d'artiste, qui montre comment le robot Curiosity a été posé sur Mars par le Skycrane, cette espèce de grue céleste, si on traduit brutalement, qui a été déposé. Et vous voyez que les tuyères qui sont ici, qui peuvent produire des poussées jusqu'à 3000 newtons, 3000 newtons, c'est tout à fait suffisant, vu que le rover Curiosity pèse 900 kg, et 900 kg, ce qui fait à peu près 3000 newtons sur Mars, un peu moins de 3000 newtons sur Mars de poids. Eh bien, ce Skycrane, il était doté de petits réacteurs à l'hydrazine monoergol aussi, parce que ça se déclenche tout seul. La goutte tombe sur le catalyseur, et tout de suite, ça produit énormément de gaz, ça transforme ça en gaz, en hydrogène, diazote, ammoniac, et ça produit une poussée qu'on peut très finement et très facilement contrôler. L'hydrazine, on s'en sert aussi dans la propulsion, dans les mélanges qu'on appelle hypergoliques. Les mélanges hypergoliques, ça veut dire que si vous les mélangez, ça vous pète à la gueule. Alors ça, on ne le fait pas chez soi, parce que c'est vraiment dangereux, mais quand on veut allumer un moteur de fusée à coup sûr, on veut quelque chose où dès qu'on fait le mélange, c'est parti. Et dans quelle situation on veut que ça s'allume à coup sûr ? Ben, il n'y en a pas 50. Il y a le module de retour lunaire, le LEM, le petit module qui était au-dessus, il fonctionnait à l'hydrazine avec un mélange hypergolique, hydrazine, peroxyde d'azote. Vous mélangez ça et boum, ça décolle. Il n'y a pas besoin d'étincelle, il n'y a pas le démarreur, il n'y a pas tout le bazar. Vous mélangez, ça décolle. Éventuellement, ça vous pète à la figure si vous avez une fuite ou s'il y a un problème. Mais ça décolle. Ariane 5, cet étage-là d'Ariane, j'ai mis Ariane 5 à côté, ces deux morceaux-là sont faits hydrazine, peroxyde d'azote, c'est pour pousser, là, mettre l'ultime poussée pour mettre le satellite à son orbite. Et la sonde Juno a utilisé aussi un mélange. Alors, j'ai dit diméthylhydrazine pour faire chic, pour faire un peu de chimie. D'habitude, on ne fait pas beaucoup de chimie, mais autant parler aussi de chimie de temps en temps. Un mélange d'un dérivé d'hydrazine et de peroxyde d'azote qui a permis à la sonde Juno là, de se mettre en orbite, ça veut dire de faire le freinage nécessaire à être capturé par la gravité de Jupiter. Alors maintenant, il y a le problème de l'oxygène. On se dit, il le prend dans son habitat. Tout va bien, mais s'il le prend, il n'a plus pour respirer. Donc, il va épuiser ses réserves d'oxygène. Est-ce que les astronautes qui vont aller sur Mars emporteront tout leur oxygène ? Non, ils emporteront de l'oxygène pour le voyage. Mais une fois sur Mars, ce qu'il est prévu de faire, c'est d'abord d'amener en amont, puis, quand les astronautes seront là, éventuellement de poursuivre, d'amener en amont des petites usines qui vont fabriquer l'oxygène nécessaire, et vous allez voir comment. Alors, c'est une réaction, cette réaction qui porte le nom de M. Paul Sabatier, qui a donné son nom aussi à l'université toulousaine célèbre et proche d'ici, donc, et qui a été prix Nobel de chimie, et qui a fait cette réaction du gaz carbonique plus du d'hydrogène, ça donne du méthane et de l'eau. Voilà, ça a l'air une réaction bête, extrêmement utile. Le dioxygène, c'est l'atmosphère de Mars. Il y a 97% de dioxyde de carbone, très faible pression, mais il y a beaucoup de dioxyde de carbone. En tout cas, l'essentiel de l'atmosphère martienne, c'est le dioxyde de carbone. Ça peut être aussi la respiration, si on est dans la Station spatiale internationale, dans l'ISS, simplement le dioxyde de carbone qui est issu de la respiration des astronautes. Vous avez le dioxyde de carbone. Le dihydrogène, vous l'emmenez. Alors, quand on sera en mission martienne, dans ces projets de mission d'exploration humaine de Mars, vous en amenez un peu pour lancer la réaction. Vous produisez du méthane qui va vous servir pour le carburant de retour. Dans le cas de l'ISS, si vous utilisez ça pour la station spatiale, le méthane, vous le jetez, si je veux dire, il ne vous sert pas. D'ailleurs, vous ne voulez pas qu'il reste avec vous, parce que s'il s'enflamme, c'est fâcheux. Et puis, il reste de l'eau que vous pouvez boire, si vous voulez, pour partie. Et puis sinon, vous pouvez aussi l'électrolyser avec un courant électrique et vous produisez du dioxygène et du dihydrogène. Moins que vous en avez mis au départ, mais vous pouvez toujours le réinjecter. Donc vous ne fermez pas tout à fait le cycle, mais vous remettez un peu de ce que vous avez produit, vous remettez dedans. Et vous avez du dioxygène, ce qu'on appelle les oxygénateurs. Ça sert à produire le dioxygène, qui est respiré par les astronautes. En étant respiré, ça produit du CO2, crac, qu'on remet dans la boucle. D'accord ? Donc un système comme ça n'est pas tout à fait bouclé, tout à fait fermé, mais il faut amener un peu d'hydrogène. Mais avec ça, vous tournez tranquillement. Le dioxygène qui est ici, soit vous le respirez, soit vous en servez comme comburant, avec le CH4 produit, pour propulser le MAV, qui n'est pas propulsé à l'hydrazine, comme on dit dans le film, mais qui sera propulsé, en tout cas si ces missions martiennes se font un jour, plutôt avec un carburant, du méthane, produit sur place. Alors, dans le cas de l'ISS, cette réaction, comme je le disais, est utilisée pour produire de l'eau à partir du CO2, parce que l'eau, ça pèse 1 kg par litre, 1 tonne par mètre cube, et je rappelle que c'est 20 000 $ le kilogramme embarqué en orbite. Donc ça peut être extrêmement pratique d'emmener plutôt un gaz comprimé comme le dihydrogène dans des conditions de sécurité suffisantes et de recycler du CO2 pour essayer de récupérer un peu d'eau. Vous pouvez comme ça récupérer de l'eau et même du dioxygène ou garder l'eau. Donc vous pouvez produire de l'eau comme ça dans la station spatiale pour minimiser les emports d'eau que vous avez à faire. Et puis sur Terre, plus amusant, puisqu'on est dans un département dit à énergie positive, enfin c'est ce qu'on entend, le parc énergétique de Morbach en Allemagne, pour stocker l'électricité, c'est très difficile de stocker l'électricité. On le met dans des batteries, mais ce n'est pas très efficace. Il y a une autre technique qui est tentée, qui est expérimentée en ce moment-là dans Morbach en Allemagne. Vous stockez l'électricité en méthane. Vous avez de l'électricité d'éolienne ou de panneaux solaires qui n'est pas utilisée. Et vous voulez la stocker, au lieu de bêtement ne rien en faire, parce que personne ne s'en sert. Qu'est-ce que vous faites ? Vous couplez une usine qui produit du biogaz, la fermentation qui va produire du CO2 et du méthane, vous gardez le méthane, ça servira à être brûlé ensuite. Le CO2, vous le prenez, vous le mettez avec un peu d'hydrogène, qui est issu de quoi ? De l'électrolyse de l'eau. Alors sur Terre, l'eau, c'est facile, prenez une flaque, si si j'ose dire. Prenez un pot d'eau que vous traînez dans la poêle, hop, vous l'électrolysez, vous avez de l'hydrogène et vous produisez du méthane et un peu d'eau. Mais là, ce qui vous intéresse, c'est produire du méthane et vous utilisez l'électricité surnuméraire pour produire du méthane et vous stockez finalement cette énergie électrique sous forme de chimie et de méthane. Donc on voit que là, il y a quelque chose qui est utilisé, qui est en prévision, qui est testé déjà à plus petite échelle que celle qui sera mise en œuvre sur Mars, pour utiliser cette réaction de Sabatier et produire des éléments utiles pour les astronautes en amont de leur venue et en même temps, une fois qu'ils seront là. On peut d'ailleurs noter que puisque Watney doit avoir, comme il le dit dans le film, un oxygénateur qui doit fonctionner probablement selon ce schéma-là, il n'avait qu'à simplement aller récupérer l'eau produite par l'oxygénateur avant qu'elle soit électrolysée en dioxygène. Il avait peut-être une solution plus simple, plutôt que de recombiner ces deux éléments-là produits par l'électrolyse, de les recombiner pour avoir de l'eau au risque de se faire sauter le caisson. Bon, par ailleurs, il y a peut-être des solutions plus habiles, parce que Mars n'est pas entièrement dépourvu d'eau. Peut-être aurait-il mieux fait d'aller ramasser de l'eau dans un puits. Je n'y crois pas, mais peut-être dans un endroit plus habile dont Pierre va nous parler immédiatement. Est-ce qu'on peut trouver de l'eau sur Mars au lieu de la produire, la ramasser?
Il était botaniste, il n'était pas géologue.
Il n'était pas géologue, ça c'est vrai.
Alors, donc, voilà Mads Damons qui va chercher de l'eau avec sa baguette. Est-ce qu'on peut trouver de l'eau sur Mars? Alors, première solution évidente, on va au niveau des pôles, nord ou sud. L'hiver, tout ça est recouvert de calottes de glace carbonique. Mais au nord, l'été, la glace d'eau affleure. Et au sud, la glace d'eau affleure presque, qui a gratouillé la glace carbonique. Et la glace d'eau, ici, c'est vers le pôle nord, ça fait une calotte à peu près 1000 km de diamètre et 2 à 3000 mètres d'épaisseur. Donc vous imaginez la France recouverte de 3000 mètres de glace. Donc il y a beaucoup d'eau au pôle nord, il n'y a qu'à y aller. Seulement le problème, c'est que le pôle nord, c'est loin de là où il est. Donc ça ne va pas bien. Alors, deuxième solution, après l'eau des pôles, il y a l'eau du ciel. Dans l'atmosphère, il y a de la vapeur d'eau. Pas beaucoup, en pourcentage, mais il y en a. Et on l'a découvert ça en 76. C'est que, enfin, 76, 77, c'est Viking, les deux Vikings qui sont posés sur Mars. C'est marcher avec des panneaux solaires. Ils prenaient évidemment des photos de jour. La nuit, ils se mettaient en veille. On n'a aucune photo nocturne de Mars, il n'y avait évidemment pas de phare. Et quand ils prenaient des photos au petit matin, juste après que le soleil se soit levé, eh bien, ils voyaient le sol de Mars, ça c'est la journée ordinaire, le sol de Mars tout blanc, recouvert de givre. Tous les matins, le sol de Mars se recouvre de quelques microns d'épaisseur de givre. Et c'est du givre d'eau, c'est pas du givre de gaz carbonique vu la température. Alors c'est pareil sur la mire colorée des robots qu'on a vu tout à l'heure. Voici la mire colorée en plein été. Là, il y a une tempête qui est passée, elle est propre. Et au petit matin, elle est toute blanche. Alors là, en particulier, la météo, vous voyez, la température l'été à cet endroit-là, elle est de moins 20 à moins 50, et l'hiver, elle allait de moins 40 à moins 70. Donc, il y a de l'eau sur Mars sous forme de givre. Alors, depuis l'orbite, on peut voir quelle quantité il y a de l'eau dans l'atmosphère. Avec une sonde en orbite, avec la spectro-infrarouge, il y a la lumière du soleil qui arrive, qui traverse l'atmosphère, qui arrive sur le sol, qui repart. Et la vapeur d'eau absorbant certaines longueurs d'onde infrarouge, il n'y a qu'à regarder la différence entre ce qui revient à la sonde et ce qui est arrivé vers le soleil pour savoir qu'est-ce qu'on a comme eau. Alors ça dépend des saisons, d'altitude, mais en gros, il y a de l'eau dans la vapeur d'eau. Et elle est, l'unité de mesure, c'est le micron précipitable. C'est-à-dire, d'ici on précipitait toute cette eau, combien ça ferait de microns d'épaisseur? Toute l'eau de toute l'atmosphère. Alors vous voyez, mais en moyenne, c'est 25 microns précipitables. Alors, est-ce qu'on peut récupérer cette eau? J'imagine que la nuit, il y a à peu près 10% de cette eau qui condense, ce qui fait une épaisseur de 2,5 microns. 2,5 microns, ça va, hein. Donc 2,5 microns d'eau, c'est à peu près l'épaisseur d'un globule rouge, hein, qui fait 7 microns de diamètre, mais en épaisseur à peu près 2 à 3 microns. J'imagine un drap. Alors les draps, ça bombe sur Mars, il y en a même un qui vole, ça s'appelle un parachute. Donc le parachute de Curiosity, par exemple, c'est 16 mètres sur 16. Là, pour simplifier mes calculs, j'ai mis 20 mètres sur 20. Ça fait 400 mètres carrés, je recouvre ça de 2 microns. Et tous les matins, je le mets dehors le soir, le matin, je le ramène, je fais fondre et j'y sors très fort. Et avec mon parachute de 400 mètres carrés, je récupère, si je ne me suis pas trompé dans mes calculs, 1 litre d'eau par parachute et par nuit. Bon, c'est pas beaucoup, mais pour boire, ça suffit. Peut-être pas pour les patates. Alors, après l'eau des pôles, l'eau du ciel, il y a l'eau du sol. Alors, vous savez qu'il tombe des météorites partout, mais sur Mars, il en tombe plus que sur la Terre, même des petites, parce qu'il y a moins d'atmosphère qui les arrête. Donc, il en tombe un peu plus. Par exemple, ici, c'est une photo qui a été prise en juin 2008. Et là, en août 2008, manifestement, il est tombé quelque chose là. Donc, Mars est relativement fréquemment perforé par des petits machins qui tombent. C'est pas grand, hein, ça fait 500 mètres. Alors voilà un cratère qui fait 1,50 m de profondeur pour 8 m de diamètre, qui n'existait pas quand la sonde est passée l'avant-dernière fois. Et quand elle est passée ce moment-là, c'est en août 2008, eh bien, il y a un nouveau cratère qui est entouré de dépôts blancs. Là, on est par 56 degrés de latitude nord, c'est-à-dire à peu près à l'altitude de Dunkerque, peut-être. Il y a des dépôts blancs, tout simplement qu'il y a de la glace dans le sol, à moins d'1,50 m de profondeur. On n'a pas besoin de creuser des kilomètres et des kilomètres. À moins d'1,50 m de profondeur, il y a de la glace. Les specs l'ont confirmé. Alors cette glace, il n'y en a pas au sol parce qu'elle se sublime. Là, il y a un cratère qui vient de se faire creuser. En octobre 2008, il n'y a plus beaucoup de blanc. Et en janvier 2009, il n'y en a presque plus parce que toute la glace qui était mise à l'air se sublime. Elle ne se sublime pas dans le sol parce qu'elle est à l'abri de la sublimation par la poussière et tout ça. Mais il y a de la glace. Alors, cette glace pas trop profonde, là, le cratère faisait 1,3 m de profondeur, grosso modo, il y en a jusqu'à 45 degrés de latitude. Ça fait déjà beaucoup, entre le pôle et 45, je dirais en latitude, ça fait la moitié de Mars, pareil de l'autre côté. La base Arès 3, à Sidia Planitia, est à 32 degrés de latitude nord, donc ça, ça ne va pas bien. Alors, quand même, pour la beauté du geste, Phoenix est posé par 68 degrés de latitude nord, voilà les paysages de Phoenix. Il a gratouillé, il a fait sa petite tranchée. Et si vous regardez la petite tranchée, en creusant même pas de 10 cm, il y a du blanc, c'est de la glace. Alors non seulement il y a du blanc, mais si vous regardez, il y a un peu moins de blanc le 19 juin que le 15 juin, et là il y avait des petits débris en grattant, il y a des petits blocs de glace qui étaient présents le 15 juin, qui ne sont plus le 19. La glace s'est sublimée. Donc si vous allez, ils ont plus au nord que le 45e, de la glace, vous n'avez qu'à vous servir en bas. Alors un problème, alors cette glace a été analysée. Là, quand ils ont analysé pour la première fois, la NASA a fait un cas de victoire. Victoire, on a de l'eau sur Mars, on le savait déjà, alors ils disent pourquoi ils le savaient. Je vous rappelle que c'est Cassini et Huygens en 1666 qui ont découvert l'eau sur Mars. Il y a encore des journalistes qui posent la question, est-on sûr qu'il y a de l'eau sur Mars? On va les envoyer chez Louis XIV, ils verront. Et là, ils disent, on savait qu'il y a de l'eau sur Mars, mais c'est la première fois que cette eau a été touchée et goûtée. Parce qu'ils ont goûté cette eau. Et là, donc, j'ai plus en flagrant délice le petit chimiste vert qui l'a analysé. Et cette eau a un pH relativement basique et contient diverses choses, en particulier des perchlorates, dont Violaine a parlé et dont tu reparleras, a priori, bientôt. Donc, quand on le sol, il faudra un peu la distiller, parce que boire de l'eau salée et en plus, on va dire, javelisée, c'est pas bon. Troisième solution, l'eau des roches et des minéraux. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais il y a des minéraux parfaitement secs, vous pouvez les mettre en soleil pendant des heures et des heures, qui contiennent de l'eau. Alors sur Terre et sur Mars, il y a au moins trois familles de minéraux qui contiennent de l'eau. Il y a deux familles de silicates, les argiles et les serpentines, j'ai mis les formules ici, et des sulfates, dont le plus courant sur Terre au moins, c'est le gypse. Et le gypse, vous voyez, dans la formule du gypse, il y a deux H2O. Et par exemple, si je prends le gypse, il suffit de chauffer le gypse à 120 degrés, et lui, il a des fours pour faire cuire ses pommes de terre. Donc, 120 degrés, il peut les atteindre. Et 1 kg de gypse, vous récupérez 200 grammes d'eau. C'est tellement facile que l'éducation nationale peut le faire. Je suis allé dans le labo de géol de l'école et j'ai fait ce petit phonime il y a un mois. Donc, j'ai mis un bout de gypse dans un tube à essai que je chauffe avec du gaz. On n'attend pas bien longtemps. Et vous allez voir les parois froides du tube ici qui vont se recouvrir de vapeur. Oui. C'est l'eau qui sort du gypse, et je vous assure qu'il était archi, archi sec, et qui sort et qui recouvre les parois froides du tube d'une buée de condensation. Alors, comment je reviens en arrière avec ce Mac? Comme ça.
Clique, ouais, voilà, super.
Alors, du gypse, c'est ce qu'il y en a sur Mars. Alors, c'est une belle découverte faite par une sonde européenne. 95% des découvertes martiennes sont américaines, mais il y en a quand même d'européennes. Et avec un spectro-imageur en 2005, la sonde européenne Mars Express a trouvé des sulfates. Alors sur cette carte, qui est quelque part dans Valles Marineris, vous avez des sulfates monohydratés en rouge et polyhydratés, c'est-à-dire encore plus riches en eau, en vert. Et là, vous avez une colline que vous voyez en vue oblique. Le bas, c'est un sulfate monohydraté, donc il n'y a pas beaucoup d'eau, mais il y en a. Et le haut, c'est du sulfate polyhydraté, sans doute du gypse. En fait. Et d'ailleurs, si vous regardez, vous avez un œil, vous voyez que les couches ne sont pas très visibles en bas, et elles sont très visibles en haut. Ce n'est pas la même nature de caillou, et ça se voit. Un œil géologue, il ne vous dira pas ce que c'est, mais il vous dira que ce n'est pas la même chose en haut et en bas. Et les spectres vous disent ce que c'est. Alors, est-ce qu'il y en a en vrai sur nos sites d'atterrissage? Oui. Alors, c'est avec les études spectrales qu'on a dit qu'il faut aller sur le mont Sharpe avec curiosité, parce que ce n'était pas les gypses qui cherchaient, c'était les argiles. Donc, ils disent il y a de l'argile, il faut y aller. Mais il y a aussi des sulfates, en vue orbitale. Mais est-ce qu'il y en a en vrai? Eh bien, oui, il y en a en vrai. Alors, voilà une photo qui est faite. On va se remettre là au niveau du point G. Ce n'est pas moi qui ai choisi le nom de ce point G, contrairement à ce que vous pourriez croire. C'est G comme ce rocher qui s'appelle Gillespie. Donc, vous voyez, en bas, c'est de l'argile. En haut, il y a une couche de grès. Violaine nous en a montré ça tout à l'heure. Et si on s'approche du point G, on voit la couche de grès, la couche d'argile, et il y a plein de filons blancs dans cette couche d'argile. Si on regarde un détail de ces filons blancs, c'est la même chose. Je n'ai pas changé le grossissement, j'ai simplement marqué des petits traits là, mais vous les voyez là, c'est la même chose. Vous avez un filon blanc avec des structures en gros perpendiculaires au bord. Alors ça, c'est une autre photo que j'ai prise sur Terre, vous avez mon couteau, vous avez des filons blancs, et vous avez ces structures perpendiculaires. Et ça, le géologue, quand il voit ça, il se dit, il y a une chance sur deux, une chance sur trois, même un peu plus dans des argiles, que ça soit du gypse. Dans les argiles, ça peut être que du gypse, ça peut pas être du quartz. Alors, ça coûte pas cher. Vous avez la photo, vous regardez. Kemcam fait mieux. Et c'est plus sûr. Mais c'est plus cher. Donc, et elle a trouvé qu'effectivement, ces filons, ça c'est sur la Terre, ça c'est sur Mars, c'est des filons de gypse. Donc, du gypse, il y en a à Gillespie, il y en a ailleurs. Là, peut-être le plus beau réseau a été trouvé le 17 février dernier. Donc, par curiosité, vous avez tous ces filons de gypse extraordinaires. Alors là, je vous mets un gros plan sur ce filon de gypse, et vous voyez cette structure assez caractéristique pour le géologue. Et quand je vois ça, moi, je ne peux pas résister. Je fouille dans mon ordinateur ou mon diapothèque pour savoir si j'ai déjà photographié quelque chose de comme ça. Quand je dis je fouille, je sais que j'ai photographié. J'ai une très mauvaise mémoire des noms et tout ça, mais pour les sites géologiques, un truc que je vois 30 ans après, je m'en rappelle. Voici un filon de gypse sur Mars, voici un filon de gypse sur la Terre. Vous avez mon couteau ici qui donne l'échelle. Pour ceux qui s'intéressent, j'ai ramené un morceau de ce filon que je pourrais vous montrer tout à l'heure, après les questions, quand tout le monde sera parti ou presque, et pourrait toucher du gypse terrestre. Celui-là, il vient même du Pays Basque. Alors, il n'y a pas que du gypse en filon, il y a du gypse dans la roche. Là, c'est la roche du pied du Mont Sharpe, à la formation Murray. On voit les strates très fines, c'est des argiles. Là, il a donné un coup de brosse. Voilà la brosse, le coup de brosse, ça c'est une pièce de je ne sais pas combien de cents pour donner l'échelle, et vous avez ces espèces de petites taches blanches allongées, des petites taches blanches allongées qui ont une forme géométrique, on va dire en losange. Là encore, le géologue qui voit ça, il dit c'est des cristaux de sulfate. Kemcam confirme. Et je ne peux pas m'empêcher de vous montrer l'équivalent terrestre, c'est quelque part dans le Languedoc. Là ce n'est pas mon couteau, c'est mon doigt. Vous avez du gypse terrestre et vous avez du gypse martien. Donc, du gypse, il y en a. Alors, est-ce qu'on peut quantifier cette eau dans le sol? C'est assez facile. Vous avez ici la surface de la Terre, par exemple, une supernova qui envoie des rayons cosmiques. Les rayons cosmiques sont essentiellement arrêtés par l'atmosphère, un peu déviés par le champ magnétique. Ils n'arrivent pas par Terre. Heureusement, sinon, on serait mal. Enfin, plutôt, la sélection darwinienne nous aurait rendu résistants. Enfin, aurait fait que les résistants seraient partis. Sur Mars, il n'y a presque pas d'atmosphère, pas de champ magnétique, les rayons cosmiques arrivent au sol, vite. Et là, il se passe des réactions nucléaires et ça produit des neutrons. Donc le sol de Mars, de la Lune et de toutes les planètes exposées au rayonnement cosmique produisent des neutrons. Quand vous aurez un cosmonaute dans l'espace qui recevra des rayons cosmiques, il produira des neutrons. Profondément très bon. Alors, il se trouve que le deutérium, qui est un des deux isotopes naturels de l'hydrogène, ça ralentit les neutrons, et d'une façon très particulière. Donc si vous avez une surface de Mars sans hydrogène, j'ai mis sans eau, je veux dire sans hydrogène, les neutrons seront rapides. Si vous avez une surface de Mars avec de l'hydrogène, par exemple dans de l'eau, les neutrons seront lents. Il n'y a qu'à mesurer la vitesse des neutrons qui sont émis par le sol de Mars pour savoir la quantité d'hydrogène, donc a priori d'eau, disons dans le premier mètres d'épaisseur, là où les rayons cosmiques prennent. Alors c'est fait en continu par curiosité, qui mesure à chaque fois, et la teneur en convertie en eau, on suppose que tout hydrogène c'est de l'eau, la teneur convertie en eau du sol de Mars, là où se promène Curiosity, c'est entre 5 et 10% d'eau. C'est énorme, 5 à 10%, c'est-à-dire 100 grammes par kilo, 10%. Alors ça, c'est au niveau où ça se promène, c'est irrégulier, il n'y en a que 5%, là il y en a 10%. Et on peut faire ça globalement avec un satellite. Un satellite, il est au-dessus, il mesure les neutrons qui arrivent du sol, il convertit ça en proportion d'eau, et on voit qu'en moyenne, alors il y en a beaucoup pour le Nord, il y a de la glace, en moyenne, c'est 5%. Ça va être ma dernière diapo avant que je te rende la parole, je vois que tu boues.
Non, non, ça va.
Alors,
c'est les gens qui vont bouillir.
Les gens vont bouillir.
Il y a manque d'eau pour
ça
l'instant.
Ça explose. Si on considère que le premier mètre d'épaisseur du sol, un mètre cube, on fait un trou d'un mètre cube, un mètre de large, un mètre de long, un mètre de profondeur, on récupère du sol à peu près 2 tonnes. À 5% d'eau, ça fait 5 litres, 100 litres. Donc, un mètre cube de sol de Mars, ça fait 100 litres d'eau en moyenne. Mais j'ai dit, en fait, c'est de l'hydrogène que j'ai converti en eau, mais je ne sais pas, ça peut être de la glace, ça peut être du gypse, mais ça peut être de l'argile ou des serpentines, minéraux dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, si c'est de la glace, ce n'est pas un problème, on chauffe à 0 degré et cette eau, on la fond. Si c'est du gypse, on fond à 120 degrés, ce n'est pas trop un problème. Si c'est des argiles ou des serpentines, il faut chauffer à plus de 800 degrés. Et là, je ne pense pas qu'il ait un four équipé à chauffer à plus de 800 degrés, non. Matt Damon. Alors, il fallait espérer que ça soit du chips. Toute cette eau, c'est essentiellement pour faire pousser des patates. Et je rends la parole à mon agriculteur
favori. Oui. Donc, on voit, d'ailleurs, il a une source de chaleur, parce qu'on ne va pas en discuter là, mais il récupère ce générateur thermo-isotopique qui est fait de l'oxyde de plutonium et qui le chauffe, il s'en sert pour chauffer.
Mais peut-être pas
800
degrés.
Non. Ça ne vaut pas 800 degrés. Mais ça peut lui servir comme source chaude, voilà. Parce que les pastilles de plutonium à l'intérieur, elles montent à une haute température quand même. Alors, donc, Matt Damon cultive des patates. Il a fait du sol. Alors, on voit ses patates, ça se passe bien. Là, c'est son petit système dont on a parlé tout à l'heure, où il fait tomber goutte à goutte l'hydrazine. Il a une petite flamme qui brûle avec l'hydrazine se transforme en dioxygène, en dihydrogène. Il a une petite flamme qui transforme ça en vapeur d'eau. Et puis, il a ces grandes surfaces ici sur lesquelles se condense la vapeur d'eau. Et puis, c'est de l'eau qui goutte, qui coule. Et puis, ça, il se débrouille pour répartir ça sur son champ de pommes de terre. Alors, évidemment, la question de cultiver sur Mars, il va utiliser un sol. Quel sol va-t-il utiliser ? Il est posé, on sait qu'ils nous disent dans le film, là c'est une carte altimétrique de Mars, partielle, il n'y a pas tout Mars à la surface, mais qui donne une idée des altitudes. Alors là, évidemment, Olympus Mons a connu les volcans Tarsis, les monts Tarsis, donc là c'est 27 km d'altitude, mais la zone bleue ici, elle est très creuse, elle est très profonde, 4000 mètres de profondeur sous la surface moyenne de Mars. Et c'est là où s'est posé Arès 3, dans Alcidalia Planitia, et plus précisément, il donne les coordonnées dans le film, et donc on sait qu'elle s'est posée ici. Alors il y a d'autres éléments qui sont intéressants. Voilà un élément qui montre la zone de coordonnées centrée autour de la zone de coordonnées où s'est posé Arès 3 pour donner le paysage réel que Ridley Scott aurait pu utiliser, enfin le paysage vu d'espace, bien sûr, vu d'orbite, mais qu'il aurait pu utiliser pour son film. Alors, Arès 4, quel endroit où doit se rendre Watney pour sauver sa peau, ici, dans le cratère Schiaparelli, donc vous voyez, il y a une certaine distance à parcourir, et puis l'altitude ici, c'est moins 4000 mètres, et l'altitude ici, c'est à peu près zéro. Donc il a quand même un bon dénivelé à franchir en partant du fond du trou pour arriver à une surface qui est à peu près, une altitude qui est à peu près l'altitude nulle, prise comme référence pour la surface martienne. Alors, pour mémoire, Pathfinder, il va aussi à Pathfinder pour récupérer des éléments du robot, du premier rover martien, petit rover martien. Et puis j'ai mis, parce que c'est les 40 ans, hein, et puis donc moi, quand j'étais petit, Viking 1, c'était quand même trop super, donc j'ai mis Viking 1 qui est ici, qui n'est pas très loin. Donc vous voyez, Arès 3 se situe ici. Et donc, comme je le disais, la profondeur, enfin le niveau moyen, c'est moins 4000 mètres ici. Arabiatera, cette zone-là, il va devoir la traverser, on va en parler un peu tout à l'heure. À peu près moins 2000 à moins 1000 mètres, et puis ici, de moins 1000 à 0 mètres. Et cette zone ici, est bleue, qui est de l'autre côté, qui coïncide, eh bien, c'est la région où l'on pense qu'il y avait l'hypothétique, mais probable, paléo-océan martien, il y a quelque chose comme 4 milliards d'années, et puis cette eau, la pression, l'atmosphère de Mars étant échappée de Mars, la pression atmosphérique a considérablement baissé, ce qui a fait se sublimer, s'évaporer l'eau de surface martienne, et maintenant on ne trouve plus d'eau de surface liquide à l'état naturel et courant, et continu. Donc il est, pour dire les choses plus clairement, probablement au fond de l'océan qui prévalait à l'époque où il y avait un océan sur Mars. Il utilise ce qu'on appelle le régolithe, la matière de la surface de Mars, mais ce rigolite, ce n'est pas ce qu'on appellerait sur Terre un sol. Un sol, c'est quelque chose qui est beaucoup plus vivant, si j'ose dire, d'abord qui est beaucoup plus riche en tout un tas de matières organiques que n'a pas le sol martien, et en vie microscopique. Donc il n'a pas de sol pour faire pousser ses patates. Il a un truc stérile ou quasi stérile et pauvre en tout et riche en cochonneries, genre des perchlorates. Perchlorates qui ont une eau de Javel, entre guillemets. Ce n'est pas de l'eau de Javel, mais enfin, c'est pas sans rapport avec l'eau de Javel. Donc, il récupère ce régolithe. Il est malin quand même, ça reste un biologiste. Il connaît des choses là-dedans, évidemment, bien plus que moi. Et il met les excréments, il mélange son sol avec les excréments de ses collègues qui sont partis en le laissant tout seul sur Mars, et puis les siens, parce que lui, il en produit en continu. Donc avec ça, il va essayer de produire quelque chose qui va ressembler à un sol. Alors, je n'ai pas vraiment fouillé, mais il va rajouter à la fois des matières organiques, et pour lui, puisque c'est les excréments qu'il vient de produire, il va aussi rajouter une vie microscopique, évidemment, d'une vie bactérienne. Donc il va faire un sol avec ça, quelque chose qui va essayer de ressembler à un sol, qui va arroser avec son eau et les patates poussent. Mais est-ce que c'est bien suffisant? Est-ce que ça va bien fonctionner? Alors, la région d'Arès 3, on l'a vu, là, c'est une vue qui est sur le côté. La région d'Arès 3, la Cydalia planitia, c'est ici. Le V1, c'est Viking 1. Et le PF, c'est Pathfinder. Et donc là, le nord est par ici. C'est la zone qu'on a regardée. Et la gamme de couleurs que vous lisez peut-être pas ici, ça donne ici la teneur en potassium. Au fond, dans la zone où se situe l'Arès 3, on trouve, en lisant la gamme de couleurs ici, que vous ne pouvez pas tout à fait lire, elle est très, très illisible, 0,5% de potassium en masse. On retrouve 0,5% de potassium en masse. Ça, on s'est fait l'analyse, ça s'appelle la spectrométrie gamma. Dans le potassium, il y a un isotope qui s'appelle du potassium 40, qui se désintègre spontanément dans une des voies, produit un rayon gamma, une lumière de haute énergie, que l'on peut détecter, même depuis l'espace, et comme ça, avoir une idée de la composition en potassium, en général, et en potassium 40 en particulier, qui est un isotope du potassium, à la surface de Mars. Et donc, on constate qu'il y a une très bonne corrélation entre la teneur en potassium et la faible altitude. Alors ça, on se dit, après tout, pourquoi pas? S'il y avait un océan qui, comme sur Terre, était d'eau, disons, salée, qui contient du potassium, par exemple, mais aussi du sodium, cet océan, en s'évaporant, a laissé les minéraux dissous, dont le potassium et le sodium. Et donc là où c'est profond, il y a de l'océan, on trouve du potassium. Là où c'est moins profond, il n'y avait pas l'océan, on trouve moins de potassium. On a l'impression d'avoir compris le coup. Mais si ça fonctionne, quand on fait ça sur Terre, et qu'on évapore de l'eau des océans, eh bien les sédiments qui en résultent sont 20 fois plus concentrés en sel, en sodium, qu'en potassium. Et si vous faites 20 fois 0,5%, ça fait 10%. Donc ça veut dire que vous prenez votre sol, vous l'enrichissez en divers excréments pour en faire un sol, enfin vous prenez votre régolithe, vous l'enrichissez pour en faire quelque chose qui va ressembler à un sol, vous mettez de l'eau, mais le sol que vous avez obtenu, il contient, on peut estimer, toutes choses égales par ailleurs, si on imagine que la même proportion, ce même facteur 20, se retrouve sur le sol martien, qui va être très salé, peut-être 10% en masse. Donc il est en train de faire pousser des patates dans un truc qui est bien plus salé qu'un présalé, dans lequel il y a des plantes qui poussent dans des sols type présalé, par exemple la salicorne, par exemple, quand c'est dans les tropicales, les palétuviers. Il y a des êtres vivants terrestres, des plantes terrestres qui poussent dans des sols salés, mais en tout cas pas les patates. Donc ça veut dire qu'il va avoir des problèmes. Il a un sol avec du perchlorate, donc disons de l'eau de Javel pour faire court, et un sol qui va être très salé, ça ne va pas être facile. Donc ça veut dire que ça va pas être, c'est pas en ramassant le sol martien simplement comme ça qu'on va pouvoir foncer. Il faut déjà le traiter, faire quelque chose avec pour améliorer ses qualités, à la fois ses qualités organiques et bactériologiques, et en même temps ses qualités de teneur en différents produits qui sont pas, en différents composés qui ne sont pas adaptés à la culture des patates, des salades, des tomates, enfin de ce qu'on pourrait imaginer. Lui, c'est des patates. Alors, un petit passage sur l'habitat martien. Pour faire remarquer une chose, c'est que le scotch est absolument indispensable dans toute manip de physique. Là, c'est le sas qui a explosé. Il y a eu un problème de sas, je passe sur les détails. Et il bouche le sas avec une grande bâche en plastique et il tend, voyez, radialement, il tend du scotch pour solidifier. Voilà la réparation finie. Là, c'est Mars. De l'autre côté, c'est la base. Alors, il faut rappeler que Mars, la pression, elle est 160 fois inférieure à la pression terrestre. La température moyenne, c'est moins 60 degrés Celsius. Et à l'intérieur, la pression, c'est une atmosphère terrestre, donc c'est quasiment, la différence de pression, c'est quasiment, c'est 1 moins 1/160, donc c'est une atmosphère quasiment, et la température intérieure, si le gars ne veut pas trop se geler, c'est disons 19, 18 ou 20 degrés. Donc il y a 80 degrés de différence de température, et il y a une atmosphère ici, zéro à l'extérieur, quasiment zéro à l'extérieur. Je rappelle, une atmosphère, c'est 10 tonnes, l'équivalent du poids de 10 tonnes par mètre carré. Quand vous avez une vitre et une atmosphère d'un côté, une atmosphère de l'autre, c'est comme il y a deux éléphants qui poussent de chaque côté de la vitre. C'est pour ça qu'elle ne se brise pas. Mais si vous supprimez ne serait-ce qu'un éléphant, et même moins qu'un éléphant, et a fortiori deux éléphants de l'autre côté, la vitre, elle est perforée, explosée, ratatinée. Donc là, il n'y a absolument aucune raison que ce plastique, même avec ce subtil scotch de la NASA qui est bien brillant, résiste aux 10 tonnes par mètre carré qui s'exercent du côté où il y a la pression atmosphérique pour que Watney puisse respirer, alors que de l'autre côté, il y a zéro, sans parler de la consternante isolation thermique d'un bout de plastique comme ça. Donc cette réparation est jolie, mais tout à fait inefficace s'il veut le réhabiter. S'il veut fermer, protéger de la poussière à l'intérieur, certes, mais s'il veut réhabiter à l'intérieur, ça ne marchera pas. Et d'ailleurs, il recommence le coup, parce qu'en fait, plus court que je recommence, c'est-à-dire que là, il recommence le coup qu'il a fait juste avant, au moment où le sas a explosé, il s'est retrouvé éjecté, son casque s'est brisé, il y a une fuite, et là, il sort le scotch et il met sur la fente. Mais c'est un vrai problème, parce que c'est pas idiot par défaut, il faut faire quelque chose, hein, entre mourir et faire un truc inutile, et sur un truc inutile, peut-être un miracle se produira. Mais là, quand même, la physique font qu'à l'intérieur du scaphandre, il n'y a qu'un tiers de pression atmosphérique, zéro, presque zéro à l'extérieur, donc ça va pousser le scotch très fort, ça ne va pas être facile de faire quelque chose d'étanche. Autant faire ça plutôt que ne rien faire, mais ce n'est pas très pratique. C'est comme quand il y a un trou dans un bateau, la pression dans l'eau sous la mer, elle est plus importante qu'à l'intérieur du bateau, et on ne bouge pas le trou de l'intérieur. Enfin, on peut essayer, mais ça ne va pas être facile, parce que le truc est poussé. Si vous sortez du bateau, vous plongez et vous mettez un truc, ça va aider, parce que le truc, vous avez mis votre main, un type, n'importe quoi, pour boucher le trou. Il va être plaqué sur la coque du bateau par la pression de l'eau. C'est pour ça qu'une fuite, évidemment, une fuite dans une station orbitale, c'est extrêmement gênant. L'air s'en va, et sans air, vous êtes bien mal. Mais à boucher, vous mettez votre main dessus. Bon, évidemment, ça fait un suçon monstrueux, parce qu'il y a zéro... Hein, mais disons, en première approximation, vous mettez votre main dessus. Et puis après, vous l'enlevez, vous mettez un truc, et la pression interne va pousser sur ce que vous avez mis, qui, s'il est assez résistant, ne passe pas à travers le trou, de sorte que ça le bouche. Donc ils ont des systèmes prévus pour boucher les petites fuites. Si c'est un gros trou, vous êtes foutu, pour boucher les petites fuites. Donc là, on voit qu'il a une tentative. Il vaut mieux faire ça que rien, mais c'est pas... Voilà, il faut qu'il se dépêche, disons. Alors, maintenant, Pierre va nous parler des paysages, du tracé entre Ares 3 et Pathfinder, Ares 3 et Ares 4 sur Schiaparelli, les paysages qu'il aurait dû traverser s'il avait été réellement sur Mars, mais bien sûr, il n'était pas sur Mars, dans le film, enfin, au moment du tournage.
Alors là, ça va aller vite. Je vous montrerai d'autres paysages après, s'il nous reste du temps. Donc, il était là, il a fallu qu'il aille là, qu'il revienne, ça fait 1000 et quelques kilomètres, et puis qu'il fasse ça, je crois, en tout, il a fait 3500 kilomètres. Donc, il a fait vraiment une grande variété de paysages. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans le film quand on regarde ces paysages? C'est très joli. On voit des paysages comme ça. Et quand j'ai vu ça tout de suite, j'avais pas vu le film, j'ai vu il y a un mois ou deux, là, quand tu me l'as envoyé. Mmh. J'ai dit, mais c'est du grès. Comme en Arizona, comme en Jordanie. Ça me faisait même plus penser à la Jordanie que l'Arizona. Je suis vite allé sur Wikipédia et j'ai vu que ça avait été effectivement tourné en Jordanie. N'importe qui a de la culture reconnaît le Wadi Rum en Jordanie.
Faut un peu géologue quand même.
Ou touriste.
Ou touriste, ah oui, touriste.
Le Wadi Rum, c'est un des rares pays du Moyen-Orient où on peut à peu près aller sans se faire enlever. Alors, Ridley Scott, on a des vues aériennes. Il a quand même un peu marxisé ses cratères, paysages, ouais. Parce qu'il est dans le Sidalien Peninsula, il a rajouté un super cratère. Mais ces paysages de grès sont... Je ne dis pas que ça n'existe pas, les grès, on en verra, mais ce n'est absolument pas caractéristique de Mars. Ce n'est pas, si vous tapez sur Mars, vous avez 9 chances sur 10 de tomber dans un terrain, on va dire, volcanique au sens très large. D'ailleurs, et en plus, l'endroit s'appelle Acidalia Planitia. Si vous appelez ça une plaine, vous, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Alors, voilà, vue du sol, c'est pareil. On voit de très belles strates de grès. En cherchant bien, je suis sûr, j'aurais vu des stratifications obliques, de la progradation, etc. Mais je ne l'ai pas fait, je l'ai regardé que deux fois, le film. Donc, il y a des grès partout dans le film. Sur 3000 km, il n'y a que des grès. Alors que sur Mars, c'est un peu l'exception. Alors, on verra tout à l'heure des paysages martiens. Il y aura des grès, parce qu'on a choisi, pour se poser, des endroits où on pouvait reconstituer la sédimentation pour trouver d'éventuelles habitabilités. Donc, les endroits où on se posait ne sont pas représentatifs. On a choisi nos endroits. Donc, voilà Mars. Et c'est tellement évident que c'est un paysage qu'il y a des volcans sur Mars, c'est un paysage volcanique. Alors là, c'est un jour qu'on commence. Voici, ça, c'est officiellement sur Mars. Et ça, c'est officiellement sur Terre, sur le Wadi Rum en l'occurrence. Ça ressemble, évidemment, ça a été tourné à cet endroit-là. Alors, Ridley Scott a dû dire, je veux dans son habitat, il avait les bureaux, chacun avait son bureau, alors vous voyez, chacun a mis ses photos de famille, etc. Et puis il y a quand même du travail. Alors là, il y a une carte géologique qui est au mur, et Ridley Scott a dû demander, qu'est-ce que je peux mettre comme carte géologique pour faire martien ? Et Napol, je ne sais pas qui l'a demandé ça, mais il faut évidemment mettre une carte géologique de pays volcaniques. Quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite reconnu des coulées de lave. C'est évidemment une carte géologique en pays volcanique. Sauf que sur les 3-4 000 km qu'il a fait, il n'a vu que des grès. Et le fait qu'il ait vu que des grès dans pays volcanique, ça me fait paraphraser un film d'Henri Verneuil et Michel Audiard. Alors j'ai dit, mais il y a des grès sur Mars, je tiens à vous l'apprendre. Ouais, il y a aussi des poissons volants, mais qui ne constituent pas la majorité du genre. C'est exactement ça qu'on aurait dû dire. Alors, dans le vrai film, c'est pas des grès sur Mars, c'est des patrons de gauche. Hein, c'est le film qui s'appelle Le Président, que si vous connaissez pas, ça va bien. Donc, des grès sur Mars, il y en a, mais c'est vraiment pas la majorité du genre. On verra tout à l'heure les vrais paysages sur Mars après tes couchers de...
Les couchers de soleil, le ciel. Parce qu'effectivement, on voit, c'est toujours...
Attends, il faut qu'on shift.
On voit évidemment des paysages, mais on en profite pour voir évidemment le ciel. Alors là, on voit le soleil, bien sûr, ici, et puis on voit un ciel qui est là plutôt orangé. Toutes les couleurs, d'ailleurs, qui ont été prises, vous pouvez trouver sur le net, d'ailleurs, il y a des petites vidéos qui montrent comment ils ont trafiqué, si je veux dire, transformé les images des paysages terriens réels, terrestres réels, pour les marciser, comme tu disais. C'est très bien fait, on voit très bien les effets spéciaux qu'ils ont mis en œuvre. Et donc, on voit un ciel plutôt orangé. Là, le soleil, je le trouve un peu brillant, et ça fait un peu soleil terrestre, mais bon, c'est une impression un peu subjective. Il faut savoir quand même que le flux lumineux du soleil sur Mars est à peu près trois fois, disons, deux fois et demi plus faible que sur Terre. Là, c'est le flux hors atmosphère terrestre, hein, le flux au sol est un peu différent, un peu plus faible. Et donc, je trouve que le soleil est un peu brillant à mon goût, mais bon, ça, c'est un détail. On voit ici un ciel qui est plutôt orangé, ce qui est bien. Là, on voit un ciel qui est plutôt bleu avec des nuages blancs, ce qui n'est pas terrible. En tout cas, la partie bleue n'est pas terrible. Et oui, parce que le ciel martien, il est comme ça. Le vrai ciel martien avec des couleurs reconstruites pour être aussi plausible que possible, il est un peu orangé. Mais le ciel martien, comment il apparaîtrait, le ciel martien, en fait ? Si on réfléchit un instant, comment il devrait apparaître ? Eh bien, d'abord, la pression atmosphérique est très faible. C'est-à-dire que la diffusion de la lumière solaire sur l'atmosphère, il y en a très peu, puisqu'il y a peu d'atmosphère. Sur Terre, avec l'atmosphère que nous avons, la diffusion rend le ciel bleu. Le bleu du ciel, c'est la diffusion de la lumière solaire sur les molécules atmosphériques. Pas de molécules, pas de diffusion, peu de molécules, peu de diffusion, et donc un ciel qui doit apparaître plutôt sombre et peut-être bleuté, effectivement, mais d'un bleu très sombre sur Mars. Mais ce qu'il y a aussi sur Mars, c'est des poussières qui sont en suspension. Alors, ça va dépendre des saisons, bien sûr, mais il y a des poussières en suspension. Et ces poussières, c'est des oxydes, c'est rouge. Et ces poussières, elles n'ont pas la taille d'une molécule, elles sont plus grosses. Elles vont diffuser la lumière rouge et absorber la lumière bleue. C'est pour ça qu'elles apparaissent rouges quand on les regarde. Eh bien, ces poussières qui sont en suspension, elles peuvent être suffisamment produire une diffusion lumineuse suffisamment plus intense que celle des molécules atmosphériques pour que l'apparence du ciel martien soit plutôt rouge, parce que ces particules, ces fines poussières, diffusent plus le rouge que le bleu. Et d'ailleurs, ça se voit très bien sur une image comme celle-ci, où l'on voit le ciel à différentes époques de l'année. On voit ici, par exemple, pendant une tempête, ça c'est pendant une tempête, donc là on voit, comme montrait Pierre tout à l'heure, un ciel très sombre, évidemment rouge, on s'y attend, des poussières, il y en a partout, mais le ciel peut être aussi assez rougeâtre, même quand il n'y a pas de tempête, et regardez comme il est sombre, un peu clair vers l'horizon, mais sombre, un peu bleuté, quand il y a peu de poussière, évidemment, et aussi quand il y a peu d'atmosphère, au moment dont parlait Pierre tout à l'heure, au moment où l'on est avec une atmosphère qui est finalement condensée dans la calotte polaire sud, où il faut se rendre compte que sur Mars, quand même, l'atmosphère disparaît, l'atmosphère se condense dans les calottes polaires pendant l'hiver, dans la calotte polaire sud pendant l'hiver.
Un quart de l'atmosphère.
Un quart. Mais ça fait quand même, ça fait un changement de pression qui est appréciable. Alors, je ne parle pas de Pluton, enfin, il y aurait tout un sujet. Là, l'atmosphère, elle est complètement solidifiée, posée, mais il y en a un peu quand même. Enfin bref, on n'en parle pas, sinon on est foutu. Donc, effectivement, le ciel martien diurne devrait apparaître soit d'un bleu très sombre, mais vraiment très sombre, certainement pas aussi bleu qu'on le voit sur Terre, parce que la densité est faible, et plus souvent avec des teintes rosées, parce qu'il y a des fines poussières en suspension qui, elles, diffusent le rouge et absorbent les autres couleurs, essentiellement le bleu. Alors, on voit aussi un coucher de soleil dans Seul sur Mars. Voilà, un coucher de soleil, alors ça, on pourrait se croire sur Terre. Hein. Le soleil est rouge et puis tout se passe très bien avec un petit bleuté au-dessus. Alors, ça, ce n'est pas du tout possible. Ça, c'est sûr que ça a été pris sur Terre. Enfin, en tout cas, ce n'est pas possible que ce soit sur Mars. Voilà un coucher de soleil martien. Voilà la réalité d'un coucher de soleil martien. On a même plusieurs images pour le montrer. La réalité d'un coucher de soleil martien. L'ambiance générale est sombre. Évidemment, le soleil se couche. On a quand même une atmosphère qui est très ténue. Donc, la lumière n'est pas. L'ambiance n'est pas très lumineuse. Mais surtout, il est plutôt dans les teints bleutés. Évidemment, quand le soleil se couche sur Terre, vous le voyez à travers une grosse épaisseur d'atmosphère. Le rayon qui vous vient du soleil a été appauvri en lumière bleue qui a été diffusé sur les côtés, puisque l'atmosphère terrestre diffuse efficacement, plus efficacement, la lumière bleue que la lumière rouge. Et ce qui vous arrive directement du soleil quand il a traversé une grande épaisseur d'atmosphère, quand il se couche, quand il se lève, eh bien, c'est une lumière qui est appauvrie en lumière bleue et qui vous apparaît rouge. Alors que sur Mars, c'est tout à fait l'inverse. C'est plutôt le rouge qui est plus diffusé. Il est plus diffusé essentiellement parce que les poussières, finalement, diffusent le rouge et sont plus efficaces dans la diffusion, car plus nombreuses que plus efficaces que la diffusion atmosphérique sur les molécules. Et qu'est-ce qui manque à la lumière du soleil? Il manque le rouge et donc il va paraître plus bleu. Pour dire les choses brutalement, sur Terre, le ciel est bleu et les couchers de soleil sont rouges. Sur Mars, le ciel est rouge et les couchers de soleil sont bleus. Mais d'un rouge et d'un bleu qui sont assez fins et assez... Vous voyez, c'est un bleu très sombre qui n'est quand même pas renversant. Alors, on passe maintenant au paysage martien. Il nous reste environ 12 minutes et 24 secondes, si on veut tenir l'heure et demie prévue à l'avance. Les paysages martiens, et puis je finirai peut-être avec des évocations voyage vers Mars.
Alors, je vais vous montrer... des photos, je vais aller vite parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, des vraies photos de paysages martiens qui ne sont pas représentatifs parce qu'on n'est pas tombé au hasard, c'est un endroit sélectionné parce qu'on espérait trouver des types de roches pouvant enregistrer les conditions éventuelles d'habitabilité. Alors je vais vous montrer des paysages des quatre robots fixes ou presque fixes, Viking 1, Viking 2, Phoenix et Pathfinder. Pathfinder, il s'est déplacé de 150 mètres, donc on peut le considérer comme fixe. Une photo de chaque, et ensuite des panoramas, il y en aura plusieurs, faits par les robots mobiles Spirit, Opportunity et Curiosity. Alors, voilà un paysage typique de Viking 1, 76. Tu t'en rappelles, m'en rappelle, c'était extraordinaire quand on voit ça. On s'attendait à voir sortir un chameau de derrière les dunes, on n'en a jamais vu. Viking 1. Alors là, on l'a choisi parfaitement au hasard, l'endroit pour des raisons géologiques, on a choisi l'endroit le plus plat possible. Donc là, on n'a pas cherché à trouver des grès, on cherchait la platitude. Viking 2, pareil, on cherchait la platitude, à peu près contemporain. Voilà un paysage typique de ces grandes plaines. Et à Sidalia Planitia, ça devait être plutôt quelque chose comme ça. D'ailleurs, rappelez-vous, Viking 1, pas très loin.
Pas très loin, oui, dans
Crisi Planitia. Il aurait dû voir quelque chose comme ça. Ouais. Alors, Pathfinder, 97. Alors, ceux qui ont vu le film, c'est là où il gratte pour trouver son robot enseveli. Il est au pied d'une falaise. Jamais la NASA, à moins d'être folle, ne posera un robot à 10 mètres d'une grande falaise. Donc il y a des petites montagnes au loin, c'est tout. Le vrai paysage de Pathfinder, c'est ça. C'est pas le Wadi Rum de Jordanie. Et le paysage de Phoenix, c'est ça. Alors là, si tu me donnes 2 minutes, il y a une morphologie assez caractéristique, c'est une espèce d'hexagone en creux qu'on devine. Et alors là, c'est ce qu'on appelle un sol polygonal. Et ça pose un énorme problème parce que cette morphologie-là, il y a plein de façons de faire des hexagones, mais cette façon-là, sur Terre, qui ressemble le plus, c'est quand vous avez des alternances de gel et de dégel. On trouve ça, moi j'en ai vu par 4000 mètres d'altitude sur les plateaux du Tibet. Les grands, et j'en ai vu en Sibérie, en Yakoutie du Nord. Pour faire ça, il faut des alternances de gel ou de dégel, ce qu'il n'y a pas actuellement. Ce qui pose un problème. Alors on peut se dire peut-être qu'il y en avait il y a 1 million d'années, parce que l'axe de Mars bascule sur lui-même. Ça n'a rien à voir avec le basculement dont parlera Sylvain demain. C'est des histoires d'astronomie. Alors peut-être qu'il y a 1 million d'années, il faisait plus chaud. Peut-être que c'est des alternances sublimation-condensation, mais il y a un gros problème de sol polygonal sur Mars. Alors maintenant, on va voir les robots mobiles, donc les trois robots. Je les ai un peu mélangés. Et j'ai mis la sonde et la date à chaque fois. Un paysage dominant, c'est quand même la plaine caillouteuse. Bon. Vous avez la plaine caillouteuse et sableuse. Voici ma deuxième allusion sexuelle, fine et délicate. Tout le monde monde se demande, ils font des manœuvres comme ça pour dérouiller les roues, dans quelle mesure ça a été fait exprès ou pas, par un conducteur facétieux ou pas. Bon. Cailloux et sable. Pareil, cailloux et sable. Opportunity. Alors, pendant que j'y suis, il y a deux sortes de photos couleurs. Je vous montre que des photos couleurs, à part les vikings. Il y a des couleurs qui sont uniformément dans les rouges, plus ou moins jaunes, plus ou moins oranges. C'est ce que vous verriez si vous alliez sur Mars. Tout simplement parce que vous avez le soleil, mais vous avez ce ciel rougeâtre qui éclaire tout. Et vous avez donc rougeâtre. Mais on le sait qu'on est éclairé par un ciel rougeâtre, ce qui rougit tout. Alors avec Photoshop, enfin l'équivalent, la NASA, voire moi tout seul, on se dit quelle serait la couleur qu'on verrait si on était nous avec nos yeux et un ciel terrestre. C'est-à-dire sans, en enlevant cette lumière rouge. Alors certaines photos, en général prises par la NASA, on n'a pas trop enlevé la lumière rouge, et dans d'autres, on l'a enlevée. Alors des fois, vous verrez des images bleutées. Sachez que les deux types existent, et suivant qu'on peut faire tous les intermédiaires possibles. Alors des fois, ça peut être des grandes plaines sableuses, à perte de vue, très monotones. En passant, on peut voir des cratères, hein. D'ailleurs, Ridley Scott a rajouté quelques cratères dans ces paysages. Là, vous avez deux petits cratères de 35 et de 90 mètres, respectivement. Et puis, il y a des collines. Un géologue, il n'aime pas les plaines. Il a horreur des plaines, parce que c'est toujours les mêmes cailloux. Il lui faut de la montagne ou des trous. Des trous, c'est des cratères, des montagnes. Donc, dès qu'il peut aller sur une montagne, et en général, il se pose pas trop loin d'une montagne ou d'un grand cratère pour avoir du dénivelé. Et là, il est en train de monter sur ces collines. Vous avez la piste qui est derrière. Alors voici un autre paysage, 2009, Spirit. Alors là, c'est une photo qui est émouvante. Spirit l'a prise, il était coincé. Il est mort là. Il arrive, il avance, il recule, tout ça. C'est programmé. À un moment, il a loupé son truc, il s'est empalé sur un caillou, un gros bloc. C'est pas qu'il soit ensablé, c'est qu'il était monté et ça l'a fait monter. Et il avait 4 roues sur 6 qui ne touchaient plus par terre. Alors il marchait très bien. Mais il n'a pas pu reculer. Alors il a marché pendant, c'était en été, tout l'été, tout l'automne. L'hiver, c'était normal, avec des panneaux solaires, il fait trop froid. Il a été en sommeil et il ne s'est pas réveillé. Et là, c'est une photo qui a été prise sur son lit de mort, en 2009, puisqu'il est mort en 2009. Il est quand même arrivé en 2004-2009, ça fait 5 ans de fonctionnement, c'est déjà pas mal. Alors là, c'est Opportunity, regardez ces beaux paysages. Donc ça serait les couleurs qu'on verrait éclairé par un ciel terrestre. Alors là, c'est à montrer le même paysage tout à l'heure, mais toi, tu avais choisi... souvent, la NASA donne les deux versions.
Oui, la version.
La version vraie et la version ce qu'on verrait si on était sur Terre. Là, j'ai donné la version ce qu'on verrait si on était sur Terre. Alors, il y a des vallées avec des dunes au fond. Il y a des vallées avec du sable, tout ça. Alors là, on est dans des grès, on va voir beaucoup de grès, bien que ça soit, comme les poissons volants, assez rare, mais parce qu'on a choisi l'endroit pour trouver des traces de vie. Là, il y a une très très belle vallée, je la trouve très belle, cette photo. Elle date il y a 3-4 mois, c'est pas vieux. Là, on est au sommet d'une colline, je vous montre ces paysages, c'est beau. Beaucoup de gens ne les connaissent pas, ces paysages, parce que la grande presse, en général, montre toujours les mêmes. Hein? Donc il y a 2-3 photos qui ressortent, qui ressortent, qui ressortent, qui ressortent, qui ressortent. L'imagination n'est pas débordante. Voilà, là, regardez ça comme c'est beau. C'est beau quand même. Hein,
ouais, faut reconnaître.
Comment?
On a envie d'y être. Ah. Avec des vraies patates.
Regardez. Alors là, on va se focaliser sur Curiosity, vite fait, puis je te laisse la parole. Si vous étiez à la conférence de tout à l'heure de Violaine, c'est Yellowknife Bay, avec ses dalles Gillespie, le point G, là, il est quelque part par là. Le Mont Sharp, les dalles d'argile plus ou moins graisseuses. Alors là, c'est l'orgasme géologique pour le géologue, cet empilement de couches, tout ça, c'est extraordinaire, un super paysage. Super paysage, et toutes les traces blanches que vous voyez, c'est des filons de gypse. Quand on a vu ça, on peut mourir. Normalement, on dit ça de Naples, mais enfin...
Pas tout de suite, quand même, attendons un peu.
Alors voilà, donc c'est une photo qui a été prise. C'est ça le but de Curiosity, c'est cet empilement de strates. Là, il y a encore le cordon de dune qu'il est en train de traverser. Ouais. Et quand il va arriver là, il va monter le plus haut possible. La discordance dont parlait Violaine était là-haut. Il y a au moins 1500 mètres de dénivelé, ouais, d'empilement de strates. 1500 mètres, c'est à peu près comme entre le haut et le bas du canyon du Colorado. Y arrivera-t-il à le monter ? C'est moins raide. Hein. Je ne sais pas. Au pied du Mont Sharp, avril 2016. Et je vous montre, juin 2016, un des derniers beaux panoramas, d'ailleurs, que Violaine nous a montré, où il y a des dalles de grès, il y a les extraterrestres, forcément. Là, regardez, il y a un parasol. Donc, il y a un extraterrestre qui est en train de se bronzer.
Il se bronze tranquille.
Comment ? Parce qu'il se bronze parce qu'il l'a replié.
Ouais, c'est vrai.
Voilà, je te laisse la parole pour finir.
Voilà, alors, pour les quelques minutes qui restent, pour essayer de ne pas trop dépasser, le voyage vers Mars, quand même, pour évoquer le vaisseau Hermès, c'est ce vaisseau qui a permis aux humains, dans le film, d'arriver sur Mars. Comment on ferait en vrai pour arriver sur Mars si on inverse l'orbite de la Terre, un cercle autour du Soleil, très exagéré ici en taille, en vert l'orbite de la Terre, en rouge l'orbite de Mars, et ces orbites dites de Oman, de Monsieur Oman, c'est de se dire, eh bien, je me pousse aux fesses un peu, quand je suis en orbite, je me mets en orbite autour de la Terre, je me pousse aux fesses un peu, et hop, je suis en orbite autour de la Terre ici et la Terre autour du Soleil, et je vais emprunter une orbite qui va être elliptique, qui va être tangente à l'orbite que j'ai quittée et tangente à l'orbite que je veux atteindre, celle de Mars. Mais si je ne fais rien, j'arrive là-haut et hop, je repars en bas, je fais une orbite elliptique, c'est super, j'ai rien gagné. C'est le problème du rendez-vous orbital, ce qu'on suit ma conférence Gravity il y a, je sais plus, 2 ans. C'est le même problème qu'avait la jeune femme qui voulait rattraper la sonde chinoise qui était devant. Si elle se pousse aux fesses avec son module Soyouz, elle arrive, mais comme elle n'a pas la même vitesse, ben elle repart et c'est perdu. Elle change d'orbite, elle change d'altitude, mais elle n'est pas à la même vitesse. Un rendez-vous orbital, c'est en un même lieu et à la même vitesse. D'ailleurs, on dit ça dans les rendez-vous habituels. On se donne rendez-vous à 23h30 au café du centre pour boire un coup. On oublie de dire trop souvent. Et on est à une vitesse relative nulle. Parce que si l'un passe en voiture et l'autre est à pied, évidemment, vous allez être au même heure, au même endroit, mais pas à la même vitesse. Donc ça, on l'oublie souvent. Et dans les rendez-vous orbitaux, il ne faut pas l'oublier. Et donc, qu'est-ce qu'on fait là-haut ? On fait une autre manœuvre. Une fois qu'on est près de Mars, on fait une autre manœuvre pour être à la vitesse de Mars, à la vitesse orbitale de Mars autour du Soleil. Et puis, on se met en orbite autour de Mars. Alors, en pratique, ça donne deux genres d'orbites. Ces genres d'orbites-là, dites de Oman, on part de la Terre ici, on fait l'orbite bleue, on arrive sur Mars, on reste sur Mars en orange pendant très longtemps, 550 jours, et puis quand Mars est là, hop, on refait la même chose, mais cette fois-ci en descendant, d'accord ? Donc au lieu de se pousser aux fesses, on se pousse vers le vide pour se freiner, pour perdre un peu d'énergie, et hop, on se retrouve sur la Terre 180 jours plus tard. On a une mission qui dure globalement 910 jours, vous voyez, quasiment 3 ans, et puis il y en a 550 sur Mars, et il y a eu deux fois 180 jours, deux fois 6 mois de voyage. Il y a une autre mission beaucoup plus courte sur Mars, un autre type de mission, beaucoup plus courte sur Mars, 30 jours sur Mars. Vous faites d'abord une orbite comme ça, dite de Oman au démarrage, et puis après c'est plus subtil. Vous tombez vers Vénus, vous faites une petite assistance rétrocédée avec Vénus, et hop, vous rattrapez la Terre. Cette mission-là, elle dure 640 jours de voyage et 30 jours seulement sur Mars. Elle a le mérite de minimiser le temps d'exposition au rayonnement cosmique hors de la magnétosphère de la Terre, hors de l'atmosphère de la Terre, évidemment, puisqu'ils sont dans l'espace, soumis au vent solaire, soumis au rayonnement cosmique, ça minimise l'effet de ça sur les cosmonautes. Il ne reste que 30 jours sur Mars et ils partent quasiment 2 ans. Alors que dans l'autre, ils partent beaucoup plus longtemps, mais ils restent aussi plus longtemps sur Mars. Mais c'est celle qui minimise la consommation d'énergie. L'orbite de Oman, dont je parlais tout à l'heure, est une orbite qui optimise, qui rend la plus faible possible la consommation de carburant et donc qui minimise la masse à emporter. Alors le vaisseau Hermès qu'on voit dans le film, il est très beau. Il est très chiadé, très luxueux, même vraiment, c'est le grand luxe. Ils ont un bureau chacun, enfin tout ça dans l'espace, c'est cool. Ils ont une espèce de grande roue ici qui tourne. Alors il y a tout un bazar ici, c'est peut-être des cargos, ça c'est peut-être un poste de pilotage. Il y a manifestement des panneaux solaires, d'autres panneaux solaires. Là, il y a des antennes de communication. Ici, c'est les radiateurs du réacteur nucléaire qui propulsent le vaisseau. On va voir tout à l'heure, ce vaisseau est propulsé. Il est beaucoup plus chic que les vaisseaux qu'on imagine envoyer, qui seront en vol balistique, qui seront poussés une fois au début. Il y aura bien peut-être une petite manœuvre à un moment donné, on ne sait jamais. Il y aura une manœuvre à l'arrivée pour se mettre en orbite, puis pour descendre. Mais entre la Terre et Mars, essentiellement, le vaisseau n'est pas propulsé. Il est en vol balistique, alors que le Hermès, on va voir, il est propulsé. Là, c'est quand le vaisseau Hermès repasse près de la Terre avant de repartir vers Mars pour aller secourir Watney. Eh bien, il y a ce module de secours, enfin de cargo qui arrive là-bas. Alors, cette roue, elle tourne sur elle-même pour créer une pesanteur artificielle sur les bords externes due à la force centrifuge qui va résulter de la rotation de la roue. Alors les dingues comme moi, ils mesurent en combien de temps tourne la roue. Ça, dans le film, on peut le faire. 40 secondes. La roue, elle tourne en 40 secondes. Alors quelle gravité peut bien régner ici ?
Il n'y a pas 50 solutions, c'est soit celle de la Terre, soit celle de Mars. Je vais être gentil avec Ridley Scott, on va prendre celle de Mars, qui vaut 38% de celle de la Terre. Quel doit être le rayon de la roue pour qu'avec une période de 40 secondes, on ait la gravité, une accélération centrifuge, qui soit équivalente à l'accélération de la pesanteur martienne? Eh bien, le rayon, c'est 150 mètres. Donc voilà, ici, cette distance-là devrait faire 150 mètres. Et là, vous commencez à voir que le vaisseau, il est vraiment grand, du coup. Hein. Si c'est ça, 150 mètres, ça commence à être un gros vaisseau. Donc on peut comprendre, ils ont un bureau chacun, tout ça. Alors le problème, c'est quand on prend cette image-là, où on voit tout un détail technique, là, il y a un gars, il a le module d'encastrement, enfin de raccord du cargo qui est en train d'arriver ici, le gars, il est là pour la manœuvre. Il y a quelqu'un ici qui est en train de regarder, vous remarquez, c'est très bien, la gravité pour cette personne est dirigée comme ça, lui, il est en impesanteur, il est en chute libre, elle est poussée par la force centrifuge sur le plancher, donc voilà, la gravité pour elle est comme ça, et le truc tourne comme ça, mais il y a sa taille. Ça, c'est une personne normale. En l'occurrence, c'est une des jeunes femmes de l'aventure, donc elle doit faire peut-être 1m75, 1m70. Et quand vous prenez 1m110 une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, vous trouvez que le rayon de la roue, c'est environ 20 mètres, et pas 150 mètres. Et que du coup, au lieu de tourner majestueusement en un tour de 40 secondes, elle va faire un tour de plutôt 14, un peu moins de 15 secondes, pour que la gravité ici soit en gros celle de Mars, et ça devrait tourner plus rapidement encore, si c'était avec une période plus courte, donc si c'était une gravité terrestre. Donc ça veut dire que là, ici, à 20 mètres, le truc tourne plus vite. S'il tourne lentement, il devrait être plus grand. Vous voyez, il y a une sorte d'incohérence qui est là-dedans. En même temps, c'est beaucoup plus joli de voir le vaisseau où la roue tourne lentement et majestueusement. C'est assez cool. Alors que si le truc tourne comme un taré à fond la caisse, le vaisseau arrive. On a l'impression d'une urgence qui ne sied pas au calme qui règne dans l'espace. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils font toujours ce genre d'erreur qui est là. On voit le vaisseau Hermès ici qui est propulsé à l'arrière. On voit très bien, là, il est en train d'approcher de la Terre pour faire sa manœuvre et repartir vers Mars. Il est propulsé là, il y a des panneaux solaires, on se demande bien à quoi il sert, parce que pour être propulsé, il a ici un réacteur nucléaire, parce que se propulser, il n'est pas propulsé un peu, il est propulsé tout le temps. Parce que l'énergie minimum à dépenser pour aller sur Mars, ça donne un voyage, cette orbite de Oman, 180 jours. Et dans le film, ça ne met pas du tout 180 jours. Ce qui est annoncé dans le film, c'est plutôt 4 mois de voyage. Donc ça a été plus vite. Il a fallu que le vaisseau soit poussé aux fesses, si j'ose dire, pour faire un temps de voyage plus court que celui qui serait le voyage optimum pour la dépense énergétique, optimum, minimum. Et donc là, le vaisseau, il est poussé. Il doit y avoir quelque chose comme un réacteur nucléaire ici. Donc, bon, les panneaux solaires font joli, mais si vous avez un réacteur nucléaire sous la main, vous savez, des quelques centaines de kilowatts ou quelques mégawatts de puissance, vous en prenez un peu pour vous alimenter. Alors, ce vaisseau, il est probablement propulsé ici, non pas par une réaction chimique, je pense quelque chose qui doit prendre son énergie d'un réacteur nucléaire qui est ici, et qui utilise un gaz, par exemple l'argon ou le xénon, un gaz qui va être ionisé, qui va être accéléré par l'énergie électrique produite par le réacteur nucléaire, accéléré à grande vitesse, petit débit, peu de matière éjectée, mais à grande vitesse. Vous avez une poussée qui n'est pas énorme, qui donne, c'est dit dans le livre et pas dans le film, j'ai pris une version du livre dans le divers, une accélération de 2 mm par seconde au carré, ce qui a l'air complètement minable. Mais pendant 6 jours, vous appliquez 2 mm par seconde au carré d'accélération. En 6 jours, vous avez gagné 1 km par seconde. Et donc, en 2 fois 6 jours, 2 km par seconde, etc., il n'y a aucun problème. Si vous avez un système comme ça, Mars, c'est vraiment, entre guillemets, facile. En tout cas, c'est beaucoup plus court d'y aller que par les méthodes pédestres, si j'ose dire, que nous avons actuellement. Voilà, il y en a qui se sont plu. L'auteur Andy Weir a recalculé très exactement toutes les orbites qu'il voulait. Il a fait un livre qui, du point de vue scientifique, est beaucoup plus précis et beaucoup moins fautif que ne l'est le film de Ridley Scott. Et ils partent de Mars. Ils arrivent 4 mois plus tard. Ils partent de Mars. Ils partent de la Terre. Ils arrivent 4 mois plus tard sur Mars. Ils y restent très peu de temps, puisque le problème se produit 6 jours après, 6 sols. Le sol, c'est le jour martien qui dure 24,6 heures, donc un peu plus qu'un jour terrestre. Il repart très très vite. Le vaisseau, donc Watney reste sur Mars. Le vaisseau Ares fait cette orbite ici orange qui devrait le faire arriver sur Terre en 3. Mais il réalise que Watney est vivant. Ils font une manœuvre d'assistance gravitationnelle sur la Terre et ils poussent avec leur réacteur nucléaire. Hop, et ils continuent le voyage qui fait une espèce de boucle supplémentaire. Ils rattrapent Mars ici. Plus exactement, ils font un fly-by de Mars. Ils ne cherchent pas à se mettre en orbite autour de Mars. Ils vont passer au-dessus de Mars. C'est pour ça qu'à la fin, il y a une petite tension parce que Watney, lui, il décolle et le vaisseau passe plein pot. Et il faut arriver au bon moment, à la bonne vitesse. C'est encore un rendez-vous orbital. Je passe sur les aspects un peu rocambolesques de l'affaire qu'on retrouve aussi dans Gravity. Le mec perd son costume et il est poussé de l'autre côté. Ce qui n'est pas idiot dans le principe, mais pas très efficace pour se propulser. Et puis à la fin, ils récupèrent Watney là et ils font une autre manœuvre pour arriver sur Terre ici. Donc, vous voyez que le système orbital, et ça a été calculé effectivement par l'auteur du roman. Et il y a tout le détail qui a été donné avec les dates, etc. Et pour finir, sur une image marrante, on voit ici le spécialiste de la propulsion dans le film, qui s'appelle Rich Purnell, vous voyez, qui est en train de réfléchir intensément. Et il y a un tableau qui est intéressant ici, où il y a énormément d'équations, énormément de choses. C'est normal pour un tableau d'un scientifique, d'un ingénieur, en l'occurrence, d'un spécialiste de trajectographie. Et on voit des choses, regardez là, regardez ça, ça ne vous rappelle rien, ça? Un truc qui pousse ici, un truc qui pousse là, là. C'est l'orbite de Oman. Voilà, là, c'est vraiment une orbite de Oman qu'il a dessinée ici. Le truc qui est écrit là, là, vous voyez que dalle, parce que c'est un peu vertical, mais ça, c'est le mouvement d'une particule avec une vitesse initiale donnée dans un champ de pesanteur uniforme. C'est la trajectoire du boulet de canon, ça n'a pas grand-chose à voir avec nos affaires. Ici, il y a l'intégration de 1 moins cosinus t et sinus t, il y a la réponse, c'est bien écrit. On ne sait pas trop quel rapport ça a avec le business, mais c'est assez joli à voir. Ici, par exemple, c'est assez intéressant, c'est le vol d'un objet avec frottement, avec ici la vitesse limite qu'on atteint quand un objet se déplace dans l'air qui subit une force 1,5 de rho V2 fois Cx fois l'air, comme j'ai dit tout à l'heure, et qui subit ça en se déplaçant dans l'air et qui donc atteint une vitesse limite qui est donnée par la racine. Voilà, c'est écrit ici. Là, on voit une tuyère dessinée, et puis là, on voit la conservation du débit écrit sous forme différentielle avec le nombre de Mach. On bricole avec ça, et là, c'est une tuyère qui est là. Là, je n'ai pas bien compris ce que c'était, là non plus. Là, il y a marqué science, parce que la science, c'est beau. D'ailleurs, vous êtes là pour ça. Là, on comprend que dalle. Là, il y a des points rouges. Et voilà. Et là, ce n'est pas très clair non plus, mais ça a l'air compliqué. Donc, ce tableau-là, il est là pour montrer l'ambiance, mais évidemment, bon, il est un peu, hein, il est un peu curieux, mais il montre l'ambiance de quelqu'un qui peut effectivement avoir des choses à dire sur des trajectoires, sur de la propulsion. Ça, c'est peut-être une système de tuyère ou un système de tuyère. Là, c'est une vraie tuyère avec des conservations et des machins. Voilà. Eh bien, on a fait, cher Pierre, 1h38 et 32 secondes à l'instant où je le dis. On est très, très fort, moins qu'André Braic, mais ça, c'est pas possible d'être aussi fort que lui. Donc, c'est fini. Merci de votre attention, de votre patience et on peut répondre aux questions si vous en avez.